C'est cool, les Bleus tombent pas sur le Brésil.
En même temps...
Attends, ils sont pas qualifiés les Brésiliens ?
Betclic souhaite la bienvenue à tous les parieurs, même ceux qu'on ne voit que tous les deux ans. Rendez-vous dès maintenant sur l'application Betclic pour profiter de tes bons plans et tente de débloquer un max de free bet en tournant la nouvelle roue des défis. Betclic, l'app officielle pour parier sur les Bleus. Sous réserve d'éligibilité, voire conditions sur le site, les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
Alors, my job is to ask FIFA to come back to 15. Was my English was good?
Tu rendi compte si tu poses une question à un supporter italien qui a dans quelques années? Ciao, grazie ancora e congratulations per la sua carriera.
I recoup the ball and Memphis give me a good pass after I shoot and I score.
Jusqu'à minuit 30, l'after foot. Intégral Euro.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'after continue jusqu'à minuit et demi sur RMC, sur la chaîne YouTube After-Foot, l'after premier podcast de France, vous le savez, votre espace de liberté pour débattre après la journée de l'Euro, after avant la libre antenne de l'after de minuit et demi à 1h30 tout à l'heure, c'est comme ça tous les soirs durant l'Euro, une heure de plus tous les soirs pour vous au 32-16. Pour l'instant, Florent Gautreau est là. Salut Florent.
Salut à tous.
Et Walid Acharchour. Salut Walid.
Salut Gilbert, salut à tous.
On va analyser les matchs du jour, parler de l'équipe de France qui joue demain son premier match face à l'Autriche. Je rappelle les résultats de ce dimanche. L'Angleterre a battu la Serbie 1-0. On est avec Julien Laurence dans quelques instants. Danemark, Slovénie un partout et les Pays-Bas qui battent la Pologne 2-1. On aura Johan Crochet avec nous tout à l'heure. Et puis Paulo Breitner, on va parler de l'Autriche. Je suis l'Autriche de près. Je suis aussi la Suisse. Je suis aussi l'Allemagne.
Et tout le monde.
Je ne suis pas le Danemark, par contre.
Pas le Danemark.
Non, je crois que ça m'intéressait trop au Danemark.
Il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark.
Il suit la Suisse, tu l'as dit ?
Bah, grave.
Oui.
Tu l'as pas entendu hier soir ?
Oui, c'est ça.
Il a rhabillé Murat Yakin hier soir.
Ouais, je pensais, pourquoi ? Bon, Yakin, il a fait un bon match, la Suisse.
Non, justement, il a dit qu'il s'était sauvé plutôt parce qu'il était attendu au tournant.
Exactement.
Après, il a expliqué que c'était un gros fainéant et que plus personne ne voulait lui en Suisse. Quoi.
Certes, mais ouais. Hier, il a marqué des points, Yakin.
Ouais.
Alors, avant les trois points, les gars, on a un match de rugby qui est en cours. Un match de barrage entre Bordeaux et le Racing. Romain Asselin, bonsoir.
Salut Gilbert, salut à tous. Il reste 2 minutes et c'est quasiment fait pour l'UBB qui va rallier les demi-finales qui auront lieu au Matmut Atlantique à quelques kilomètres de Chabant le week-end prochain, 31-17 face au Racing. Encore 2 minutes et les Girondins qui vont avoir une touche à jouer dans leur camp. C'est quasiment fait.
Allez t'acheter du bébé avec Odin.
Voilà.
Il est en forme.
Il démarre très très fort. Ouais.
Les trois points, jingle.
L'important, c'est l'essentiel.
Le plus important, c'est les trois points.
Et souvent, l'essentiel, c'est le plus important.
Les gars, vos trois points de débat après cette journée à l'Euro.
J'y vais.
Vas-y.
Les trois Lions qui rugissent pas très fort. C'est un peu la déception parce qu'on les a annoncés favoris et j'ai pas été convaincu du tout. Donc j'imagine qu'on va parler de Julien, mais il y a sans doute un effet Southgate. Les Pays-Bas, c'est différent. Ils ont pas gagné de manière éclatante, mais ils ont quand même bien dominé leur sujet. Mais c'est pareil, ça n'a pas été comme les grosses équipes des premières journées. Et puis mon troisième point, en fait, c'est pour les Bleus. C'est de dire que dans cet Euro, pour l'instant, les gros s'en sortent quand même très bien. Mais plus ou moins bien selon le contenu, hein, quand même. Et que ils ont un match très important, puisque je me dis que l'un partout faisait leurs affaires là, pendant un moment entre le Pays-Bas et la Pologne. C'est pas le cas, les Pays-Bas ont gagné. Donc pression sur les Bleus qui passent un peu après les autres.
Premier point, c'est l'Angleterre décevante qui a souffert ce soir jusqu'au bout contre la Serbie, malgré un Bellingham qui a été décisif. Mon deuxième point, c'est les Pays-Bas qui gagnent plutôt logiquement par rapport à ce qu'ils ont produit sur les 90 minutes, mais ils ont eu besoin de l'appel du numéro 9 Weghorst pour aller chercher cette victoire. Et mon troisième point, c'est le Danemark décevant. Face à une équipe slovène qui aurait pu aller gagner la rencontre au bout du bout et notamment avec la barre de Šeško. Donc le Danemark après la Coupe du Monde décevante, encore un résultat décevant pour les Danois qui sortaient d'une demi-finale d'Euro.
On va en parler là aussi tout à l'heure. Julien Laurence nous rejoint. Julien, bonsoir.
Salut Gilbert, salut à tous.
Salut Julien. Salut Julien.
Démarrons sur l'Angleterre, le 32-16 est ouvert. Supporters anglais, serbes, n'hésitez pas à nous appeler. Julien, je sens que tu vas nous parler de Southgate assez vite.
Oui, on va commencer un peu plus globalement. C'est toujours bien de commencer par une victoire, forcément.
C'est vrai.
Même sans convaincre. Pour l'instant, on prend. En tout cas, tu prends pour l'instant. Mais c'est vrai que j'ai trouvé ça encore très décevant. Ils ont joué un quart d'heure, le temps d'ouvrir le score, de prendre l'avantage. Et puis après, mais ils le font souvent, ça. Je sais pas si c'est une mauvaise habitude. Je pense que ça vient du Sylvain Ripoll anglais un petit peu aussi. Mais voilà, cette mauvaise habitude qu'ils ont d'ouvrir le score et puis après de jouer plus bas, d'attendre, de laisser le ballon à l'adversaire.
Sauf que celle-là, ils l'ont fait tôt, Julien. Très vite, je trouve.
Bah oui, ils ont marqué la 12e et puis après, voilà. Mais en fait, c'est à chaque fois, une fois qu'ils ouvrent le score, donc que ce soit la 12e, à la 20e, 30e, juste avant la mi-temps, ça change pas. Je comprends pas pourquoi ils arrêtent de jouer comme ça. Et en seconde période, c'est encore pire parce que tu perds le contrôle du match. Tu subis. Ils ont pas concédé d'énormes occasions non plus, mais tu subis quand même. Tu sais jamais sur une frappe déviée. Il n'y a aucun contrôle en seconde période.
C'est vrai que parmi les équipes, c'est pour ça que je faisais un petit. Ça va, on va pas commencer les bilans, mais comme on a vu l'Espagne, effectivement, on commence à avoir vu un bon nombre de des équipes annoncées. L'Allemagne, la Suisse, les Pays-Bas. C'est intéressant de voir que ce qui est intéressant, c'est le contenu finalement. C'est pas forcément le résultat parce qu'ils ont tous gagné. Et dans le contenu, c'est une des plus décevantes équipes parmi les favorites, l'Angleterre. Ouais. Donc c'est vrai que à la fois, quand je voyais Foden, Siba, tous les joueurs, je les ai vus bas à un moment donné, aller rechercher des ballons très très bas. Et puis après aussi, dans l'absence de contrôle et de confiance, j'ai trouvé ça assez étonnant qu'en deuxième période, ils soient aussi vite sous pression. Moi, je pense que côté serbe, la déception pour moi, c'est Mitrovic, parce que je pense qu'avec un joueur plus en forme, il y avait moyen peut-être de faire la diff, on y reviendra. Mais pour rester côté anglais, finalement, c'est Pickford qui est contesté parfois, qui leur sauve aussi la donne, c'est-à-dire s'il y a eu un souci ce soir.
Alors, en premier temps, Flo, t'as Harry Kane qui touche deux ballons. On a tout dit en disant ça, c'est qu'à un moment donné, quand ton numéro 9 que tu dois mettre en valeur dans un 4-2-3-1 plutôt offensif touche deux ballons alors que le premier quart d'heure était plutôt positif, ça montre quand même l'incapacité qu'a eu l'Angleterre à faire mal à cette équipe serbe et qui s'est laissé endormir dans cette rencontre avec très très peu de liens collectifs. La solution Alexander-Arnold au poste de numéro 8 n'a pas fonctionné du tout. Je vois vraiment pas ce qu'il apporte balle au pied et défensivement. On a une équipe qui est souvent coupée en deux, et Declan Rice qui est obligé de faire des efforts monstrueux, et c'est ce qu'il a fait sur la première heure de jeu. Bon, pour moi, il a été vraiment, avec Bellingham, l'un des hommes forts. Mais c'est vrai que quand tu vois ce qu'a mis en place l'Allemagne, l'Espagne, même la Suisse ou l'Italie sur la première mi-temps contre l'Albanie, sur le jeu proposé, le fait de ressortir même proprement les ballons, ça balance beaucoup de ballons. Pickford, Gueye,
tous les 6 mètres,
Stones,
ils ont joué long.
Il y a très peu de calme, il y a très peu de contrôle, hormis la grosse occasion d'Harry Kane en deuxième mi-temps. Tu n'as rien du tout.
Même offensivement, je permets une parenthèse dans ce que tu dis, je suis d'accord globalement. Même offensivement, les actions et les deux occasions, le but et la tête de Kane, c'est du jeu classique, avec centre, mais dans les petits intervalles. Et notamment dans l'axe, et avec les genres de qualité qu'ils peuvent avoir, on n'a pas eu de jeu, de construction de jeu intéressant.
Les schémas avec les latéraux, Walker, il est monté deux fois sur le premier quart d'heure, ça a fait mouche, il a donné le ballon pour Saka et il a eu une grosse occasion, derrière il n'est plus monté. Trippier, on l'utilise très très rarement, le jeu intérieur existe très peu. Non, mais sincèrement, quand on voit le début de l'Euro avec ce jeu intérieur où Toni Kroos, Xhaka, Barella, c'est des mecs qui essayent de s'incorporer, d'être dans le jeu participatif en Angleterre, c'est moi je Bellingham, moi je Foden, moi je Saka. Il y a très rarement des trios.
Alors
du
on continue les mains, c'est fini au rugby, score final Romain, s'il te plaît.
Qualification de l'UBB pour les demi-finales, score final 31-17, le programme des demi, Toulouse-La Rochelle vendredi soir, Stade Français Bordeaux samedi soir, ce sera au Matmut Atlantique de Bordeaux.
Très bien, Berck, un sponsor qui nous est cher à nous, anciens des années 80.
Qui Andros qui est,
non, Cacolac, je crois.
Cacolac,
ouais. Mais ça existe toujours.
Oui, ça existe toujours.
Mais c'était vraiment.
Bon chocolat, bon, je peux plus en boire.
Hype Cacolac.
Bon chocolat froid. Voilà. Bon chocolat froid.
Ça fait au moins 20 ans que je fais plus de Cacolac.
Très sucré, apparemment aussi.
Ouais, j'avoue que j'ai
un bon cacolac bien frappé,
ça avait disparu.
Papin et le cacolac.
C'est papin ou le guignol, non ?
Dans les guignols.
Dans les guignols, comme il avait fait une pub pour cacolac, c'est ça.
Ouais. Bon bref, excusez-moi pour cette parenthèse.
Non mais je disais, on a beaucoup d'individualité. Bellingham qui sur la première mi-temps a surnagé avec dans le combat, dans l'abattage, dans ce qu'il a, dans le but qu'il met, dans ce dépassement de fonction pour aller mettre cette tête. Mais sinon, sincèrement, l'animation offensive et même la lecture du match de Southgate, il fait rentrer Gallagher très très tôt. Moi, j'aurais bien aimé voir Bellingham un peu plus reculé avec Foden au poste de numéro 10, parce que la question de Foden, elle va se poser pendant toute la compétition. On l'a vu avec City, avec et sans De Bruyne. Là encore avec Bellingham, quand il est sur un côté, moi je trouve quand même que c'est du gâchis. Pourquoi pas voir un Bellingham à côté de Declan Rice qui pourra avoir le jeu face à lui, mettre un vrai ailier, donc un espèce de Cole Palmer ou de Eze sur le côté à la place de Foden. Foden, tu lui donnes les clés au poste de numéro 10, Saka et Kane. Je trouve que sincèrement, moi l'équipe elle est contre-productive ce soir, et puis surtout elle génère de la crainte. Je trouve tout au long de la rencontre, elle est craintive, cette équipe d'Angleterre.
Julien, tu es d'accord avec celui de Walid là?
Ouais, moi ouais, tout à fait, mais depuis le début, je dis qu'il faut mettre Gordon à gauche et
oui, ou Gordon
dans son vrai et pas sur un côté, parce que sur un côté, c'est à City, ça peut marcher parfois parce qu'ils sont tellement forts et tellement supérieurs aux autres qu'il s'en sort quand même et il fait but, passe des, etc. Là, à ce niveau-là, en plus, c'est très compliqué pour lui. Et puis tu sens bien qu'il n'a pas envie de jouer là où il avait commencé en justement désolant beaucoup. Il cherchait de la liberté, il cherchait de jouer un petit peu entre les lignes, etc. Tu voyais bien que lui et Bellingham, c'est tout pour pas se marcher sur les pieds non plus. C'est ça le problème en fait. Et comme cette équipe, elle a aucune structure tactique, puisque c'est Sylvain Ripoll qui est entraîneur, donc forcément il peut pas y avoir une structure tactique. Donc c'est compliqué pour eux aussi de pouvoir trouver le lien et c'est ce genre de triangle, de dédoublement de passe dont Walid était en train de parler. Donc
parce que il va falloir de façon, faire autrement. Julien sur la première mi-temps. Bellingham, il est de façon très très bas parce que il y a personne pour créer le jeu, donc il est obligé de redescendre, d'aller chercher les ballons et de les relancer. Pourquoi ne pas le mettre à la place d'Alexander-Arnold? Mais j'ai pas l'impression qu'il va faire ça. Parce
non, mais ça
que,
c'est sûr. Non, mais après,
Gallagher est rentré, donc et Maïnou derrière.
Ouais, non, mais après c'est aussi du poste pour poste par rapport à.
Oui, oui, c'est ça. Mais il a pas tenté.
Et Bellingham et ouais, mais après. Trent, il tente l'expérience. Sincèrement, je pense que tu le fais pas en début d'Euro comme ça. Mais bon, au moins, il l'a fait. Il le fera plus, à mon avis. Hein. C'est clair. Ou alors, peut-être contre la Slovénie, parce que contre un bloc bas, pourquoi pas. Mais vu ce que Trent a produit ce soir, c'est un échec pour l'instant. Mmh. Et le problème aussi, juste pour finir sur ce rôle d'un autre milieu de terrain, c'est que ni Rice, ni Alexander-Arnold, quand il joue dans ces positions-là de double pivot, ne font ces appels, ces courses vers la surface pour un centre, comme sur le but de Bellingham par exemple. Donc Bellingham peut te faire ça, peut te faire ça. Gallagher, c'est là où il est très fort aussi, c'est toute cette énergie et ces courses vers l'avant qu'il fait en arrivant tard dans la surface pour un centre en retrait par exemple, pour quelque chose comme ça. Trent et Rice, c'est dans la gestion du ballon et dans le contrôle du jeu qu'ils sont forts. Sinon, donc, quand tu les as tous les deux comme ça, en fait, il n'y en a pas un qui a un profil un tout petit peu différent de l'autre. Donc, bah, tu perds quelque chose, forcément. Et c'est pour ça que Bellingham a beaucoup à faire.
J'ai un peu peur.
Il a été élu homme du match par l'UEFA, d'ailleurs.
Oui, mérité. Avec Declan Rice, c'est le meilleur.
C'est mérité, mais quand on est à ce point, on va s'apercevoir, à mon avis, comme dans l'Euro gagné par l'Italie, que c'est les collectifs qui vont l'emporter. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir s'en sortir avec les... Bien sûr, c'est utile d'avoir ton meilleur joueur ou tes meilleurs joueurs qui sont présents et qui sont forts, mais il faut des collectifs. Ce qui m'inquiète tactiquement, Julien et Walid on l'ont bien dit, et physiquement aussi. Parce que t'as des stats impressionnantes sur le nombre de matchs qu'ils ont joué, et tu trouves qu'il y a des... Je me demande si Trippier, il n'y a pas déjà un souci.
Oui, oui,
mais,
pas de match.
Et
puis en plus, Trippier, ils n'ont pas de remplacement.
Ouais, je trouve
que, est pas prêt encore.
Voilà, l'autre inquiétude, elle peut être là, parce que c'est une équipe comme ça qui n'a pas de structure et qui, si elle est physiquement un peu en déséquilibre, enfin en difficulté, moi c'est ça qui m'inquiète. J'essaie de regarder déjà un petit peu sur la fraîcheur, à la fois la fraîcheur tactique, l'envie. Voilà, ce qu'on a vu par exemple de la Suisse. Avec le réservoir, y compris le banc de touche, je ne dis pas qu'ils vont gagner l'euro, mais ils ont des solutions. Est-ce qu'ils ont le coach pour? Je ne sais pas, parce qu'il a vachement innové hier. L'Allemagne, oui, il y a de la fraîcheur et tactiquement, là, on sait comment ça joue. L'Italie, j'ai aussi des petits doutes, parce que sur la réserve, sur le banc et sur ce que j'ai vu aussi physiquement à voir. Et puis pas d'attaquant peut-être pour marquer.
Oui, il fait que trois changements. Hein,
ouais, et finalement,
il sort Saka, qui était l'un des meilleurs en première mi-temps, alors que Foden, que j'adore, hein, qui est passé complètement à côté. Même dans ces changements, je trouve que bon, on va voir ce qui va se passer sur le deuxième match. Hein. Le plus important, c'est d'avoir gagné face à une équipe serbe qui était quand même un peu plus coriace que ce que je pensais. Mais je trouve que c'est sur surtout de l'Angleterre qui leur a permis de rester en vie dans ce match-là et de reprendre confiance.
Le sélectionneur à la mi-temps serbe leur a clairement dit, vu leur entrée de match, leur entrée en deuxième période aux Serbes, qu'il y avait vraiment la possibilité. Ouais. Et là, derrière, on a vu vraiment qu'en appuyant un peu sur l'accélérateur, ils pouvaient faire très mal. Ils auraient pu faire très mal avec Vlahovic.
Gueye n'a pas été si mauvais que ça, Julien. J'ai bien aimé son match. Il a été plutôt sérieux et pas pris à défaut sur les duels. Maintenant, à voir face à plus d'adversité.
Ouais, après, mais défensivement, il y a quand même eu trop d'espace, ça a été trop facile. Après, même si les Serbes n'ont pas une grosse occasion, ils ont quelques frappes, etc. Ils ont des bons centres qui passent devant le but, mais c'est quand même trop facile parfois de pénétrer. La meilleure occasion, c'est l'erreur de Trent Alexander-Arnold quand il perd le ballon et Mitrovic frappe juste à côté en première période.
Et la frappe de Vlahovic avec Pickford qui est incroyable.
Voilà, celle-là, mais je pense qu'elle est au-dessus de toute façon. Je pense qu'il la sort, mais à mon avis, elle est sur le haut de la transversale ou juste au-dessus. Mais il y a un problème d'équilibre. Quoi qu'il arrive, il y a un problème d'équilibre dans cette équipe-là. T'as un équilibre avec le ballon déjà, parce que tu l'as dit, Trippier à gauche, ça sert à rien. En fait, il joue vers là, il est haut sur le terrain, mais il sert à rien. Il est jamais servi, il fait aucune différence. Walker à droite, ça fait longtemps qu'il a plus rien apporté offensivement à part sur la passe pour Saka. Et je pense que dans les consignes aussi, il y a toujours ce côté très prudence de la part de Southgate qui est vraiment énervant parce que ils sont capables de faire beaucoup mieux que ça. Et surtout, maintenant, ils devraient faire beaucoup mieux que ça. Et comme l'a dit Flo, je crois que c'était, je sais pas maintenant moi s'ils sont capables d'élever leur niveau de jeu collectivement et de jouer mieux en tant qu'équipe. En fait, autre que un moment brillant individuellement, par-ci, par-là, Saka, en fait, etc. Si en revanche, je ne suis pas d'accord avec toi sur la profondeur, Flo.
Ouais, sur la profondeur de...
Je ne suis pas d'accord. Je pense que sur le banc, tu vois Bowen, il entre, il remplace Saka, il fait un bon sur la tête de Kane tout de suite.
Non, mais moi je ne peux peut-être
donc,
pas parler
je pense qu'il y a quand même de la profondeur de banc et des options.
Ouais, peut-être pas. Je ne l'ai peut-être pas dit pour l'Angleterre.
Mais ils ne sont pas fatigués, si tu veux, les remplaçants.
Mais après, il y a un truc, c'est que cette équipe-là, moi, je te rejoins sur la fébrilité défensive. C'est-à-dire que dans ces matchs que tu domines, alors en partie, je parle pour le début, parce qu'après, ils ne l'ont pas dominé, mais dans ces matchs où tu es l'équipe la plus forte, disons, même si parfois tu as peu d'occasions contre toi, tu peux voir sur des débuts d'occasion ou des semblants d'occasion les craintes que tu peux avoir. On l'a redit hier pour Donnarumma sur les ballons aériens, on connaît un peu toutes les faiblesses. Et là, sur deux, trois actions, que ce soit Stones, même Pickford, qui a été bon sur les arrêts, mais qui fait une sortie à la Darry Cole à un moment donné. Il peut me faire peur, même si je sais qu'il a de bonnes stats cette année, je crois, avec Everton.
Quand il fait avec le point, là.
Là, c'est le cirque, là, c'est pas d'air. Mais si tu veux, c'est ça qui m'inquiète. C'est-à-dire que si cette équipe-là, offensivement, n'écrase pas en rouleau compresseur ses adversaires, elle sera à même de prendre assez facilement un but contre des adversaires plus forts. Et même contre cette Serbie-là, honnêtement, les Serbes auraient pu et mérité peut-être même de marquer un but. Donc, défensivement, mais même si effectivement tu as dit Gueye s'en est sorti, tu sens que ça peut rentrer. Donc, par rapport à ce qu'on voit, si offensivement, alors que tu as tout ce matériel-là, tu ne fais pas mieux, tu t'exposes à vraiment.
Allez, Julien, ensuite on fait une pause.
Non, mais finalement, il n'y a aucune surprise en fait. Il n'y a rien de surprenant dans ce match-là. C'est tout ce qu'on attendait. C'est tout ce qu'on avait dit avant, dans l'avant-match, tout à l'heure qu'on a fait sur la radio digitale. C'est tout ce qu'on a fait. Lui, le Sylvain Ripoll anglais, il a aucune certitude déjà. D'où la position de Trent Alexander-Arnold, d'où les tâtonnements tactiques et même collectifs dont on vient de décrire dont on vient de parler pendant un quart d'heure qu'on a très bien décrit. Là, tu sors d'un match comme ça et c'est pareil. Bah, t'es pas plus avancé déjà. Bellingham tout seul très bien pendant 45 minutes, ça c'est sûr. Après, il a eu du mal physiquement, mais c'est normal parce que tu peux pas non plus demander de faire deux périodes de la même façon. Mais en fait, tu savais très bien ce qui allait se passer. Ça s'est passé. Et t'es après le match et tu dis voilà, c'est exactement ce qu'on vous avait dit avant. C'est exactement ce qui s'est passé. Ils sont pas plus avancés eux, ni Southgate, ni nous non plus. Et puis maintenant, on verra le deuxième match. Mais tu vois, par rapport à d'autres qui ont des certitudes, tu connais le 11 de départ à la base, tu connais un peu les forces, les faiblesses. Eux, on n'a aucune certitude et Southgate non plus.
Ouais, ils vont y aller comme ça, quoi, sans la leçon apprise. Et avec des individualités qui physiquement ou intrinsèquement peuvent faire la différence.
Ouais, mais c'est un peu terrible parce que tu sais que effectivement le sélectionneur Southgate attend ça. Il attend que ses joueurs clés lui fassent la diff et que derrière voilà. Mais ça suffira. À mon avis, si c'est comme ça, ça suffira.
Ouais,
mon
dans un instant, Franck sera avec nous au 32-16, les gars, pour donner son avis. Les supporters de l'Angleterre, on continue le débat. On fera une évaluation ensemble. On dira un mot des Serbes, bien sûr, avant de parler ensuite des Néerlandais. C'est le groupe de la France. les Pays-Bas qui ont battu la Pologne 2-1. L'After revient tout de suite et n'oubliez pas que l'After demain soir sera à Mâcon pour le premier match de l'équipe de France. Lors de chaque match de l'équipe de France dans cet Euro, on va dans la ville de début de carrière d'un des joueurs. Mâcon, c'est la ville d'Antoine Griezmann. On sera demain au stade là-bas à Mâcon. Pierre,
un bon courte-paille pas loin.
Ah bon, tu sens le courte-paille à Mâcon.
Mâcon, ça sent le courte-paille.
Très bien. Alors le stade, c'est le stade Pierre Guérin. Bon, c'est dans Mâcon, pas loin de la gare. Donc si vous voulez venir, vous venez. Il faut juste envoyer un petit mail à l'adresse suivante public@rmc.fr. Et puis pour le prochain match vendredi, on sera à Grenoble, ville du premier club pro d'Olivier Giroud. Là, ce sera au Stade des Alpes, carrément. Donc, si vous voulez venir, tout ça se fait en public. L'After sera en public. Florent sera là demain soir, d'ailleurs. Daniel Riolo sera là, à Grenoble également. Vous envoyez un mail à l'adresse suivante, public@rmc.fr. Dans un instant, Franck, supporter anglais, on finit le débat sur la victoire de l'Angleterre face à la Serbie 1-0. À tout de suite.
C'est cool, les Bleus tombent pas sur le Brésil.
En même temps... Attends, ils sont pas qualifiés, les Brésiliens ?
BetClic souhaite la bienvenue à tous les parieurs, même ceux qu'on ne voit que tous les deux ans. Rendez-vous dès maintenant sur l'application BetClic pour profiter de tes bons plans et tente de débloquer un max de free bet en tournant la nouvelle roue des défis. BetClic, l'app officielle pour parier sur les Bleus. Sous réserve d'éligibilité, voire conditions sur le site, les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
RMC jusqu'à 18h30. L'After Foot, Intégral Euro.
Gilbert Bribois.
Il est 23h19, Florent Gautreau est là, Walid Achercheur est là, Julien Laurence est là également pour analyser la victoire de l'Angleterre face à la Serbie. Et Franck est avec nous au 32-16, supporter de l'Angleterre. Salut Franck.
Bonsoir à tous. Monseigneur Julien Laurence, enchanté de l'île de Ré, mes respects du soir.
Merci mon ami.
Merci mon ami. Et Flo, ma cravache d'os préférée, j'espère que tu as regardé le prix de Diane.
J'ai regardé le prix de Diane, mais on s'est fait un peu tondre quand même.
Bah, normal, on
s'est fait un peu raser là parce que
Jean-Pierre Dubois a gagné.
J'ai cru que c'était une arrivée de quintet du lundi là avec Tony Picon et Stéphane Pasquier. Parce que voilà, pour revenir au foot,
Tony Picon,
c'est le jockey qui a gagné.
Tony Picon, bien.
Et normalement, ça devait être Christiane Demiro.
Qui est blessé. Mais en l'occurrence, c'est donc la jument de Patrice Cottier, la pouliche de Patrice Cottier qui a gagné. Et non pas celle vous allez voir, je reviens au
Tony Picon, pour moi, c'est un attaquant de Championship.
Ouais, bah c'est un peu ça. On attendait tous la pouliche de donc Carlo Ancelotti est copropriétaire. Parce que vous savez que comme plusieurs joueurs italiens, dont Salvatore Sirigu, entre autres, ils sont fans de jeux de course hippique. Et Carlo Ancelotti avait un vrai favori pour remporter le prix de Diane, qui est quand même une course mythique, avec un entraîneur italien qui est installé en France, et ça ne l'a pas fait,
Elle n'allait pas dans le terrain.
Non, ça n'allait pas dans ce terrain-là. Mais bref, on a regardé, on s'est éclaté, c'était sympa. C'est un bon moment quand même. Désolé.
Bon bref, revenons à nos moutons.
Oui, s'il vous plaît.
Donc, merci monsieur le directeur. Donc, non mais moi je suis pas, au contraire de vous, moi je suis satisfait, au contraire, ça me plaît beaucoup, parce qu'il faut garder une poire pour la soie. J'ai trouvé l'Angleterre, je pense que ça va monter crescendo. Je me méfie beaucoup, beaucoup de toutes ces équipes qui démarrent très très fort, comme l'Allemagne et autres, qui démarrent fort. On sait très bien dans ces championnats, il faut commencer doucement. Et moi, je pense qu'il y a du potentiel. Je pense qu'ils n'ont pas tout montré, et je pense qu'ils vont monter étape par étape. Moi, je suis satisfait, ça suffit, 1-0.
C'est une façon de voir les choses.
Non mais on le dit depuis vendredi, les premiers matchs, c'est pas toujours une photographie réelle de favoris.
Et même les compositions d'équipe, rarement une équipe qui débute termine la compétition. Voilà. Hein. Donc oui, il y aura du changement, il y aura des ajustements. Maintenant, si on doit parler du contenu, comme l'a dit tout à l'heure Flo, par rapport à ce qu'on a vu pour l'instant, après il n'y a pas de vérité absolue. Hein. On avait bien vu l'équipe d'Angleterre commencer timidement à l'Euro 2021 aussi, en n'étant pas incroyable dans le jeu, avec un Harry Kane qui était très... très moyen sur la première partie de compétition, et c'est après le match contre l'Allemagne en 8e à Wembley qui sont montés en puissance, et ça a fait finale derrière. Donc oui, après on analyse un match de ce soir, et moi pour le coup j'attendais un peu plus de l'Angleterre, surtout après une ouverture du score assez tôt. Je pensais qu'ils allaient enclencher et se mettre en confiance, et ça n'a pas été le cas.
Après, là où tu as raison sur la gestion du premier tour, tu peux te dire que cette année, avec les meilleurs troisièmes, tu gagnes le premier match, quel que soit le contenu, tu t'assures une grande partie de la qualif.
Le principal effet, oui.
Donc après, évidemment, comme un tournoi, c'est une question de confiance, de groupe qui se crée, de collectif, t'as raison, d'équipe qui sera sans doute pas tout à fait celle-là. L'histoire d'Alexander Arnold, c'est peut-être justement le truc qui fait qu'on verra plus ce système. Mais quand même, après, il y a des choses qui restent. Quand défensivement t'as des failles, quand tu montres autant de faiblesses, y compris même parfois un peu mentale, ça à un moment donné normalement tu vas le retrouver. Après, ça veut pas dire que ceux qui ont réussi leur match, comme l'Allemagne par exemple qui en a passé 5, va marcher sur tout le monde, ça c'est sûr. Mais dans l'autre sens, ceux qui ont des vraies carences, des vraies failles, c'est quand même à mon avis compliqué d'aller faire 7 matchs pour aller au bout et d'y arriver, sauf à ce que tu trouves tactiquement, comme par miracle, mais ça je pense que Julien pense pas ça de Southgate, trouve par miracle une formule qui fasse que, sauf que si tu l'as pas répété cette formule, tu n'as pas t'as pas d'automatisme, l'absence aujourd'hui de jeu intérieur, tu vois, ok, donc ça va, on va voir apparaître ça comme sur le troisième match, comme par miracle, ou au deuxième match.
Attention, pour moi la seule marge de progression, c'est sur la fraîcheur physique, le côté athlétique. On sait très bien que ça peut être une équipe basic fit qui peut détruire n'importe quelle équipe, notamment au milieu de terrain, dans les duels avec Rice, avec Bellingham, avec les courses d'un Saka. C'était le cas à l'époque avec Sterling qui est plus là, avec un Harry Kane qui peut être beaucoup plus pertinent et utilisé dans le jeu que sur la première mi-temps, où je l'ai trouvé mieux en deuxième, même si c'est pas un grand Harry Kane, mais beaucoup plus utile dos au but pour essayer de ressortir les ballons, alors qu'en première mi-temps il a été introuvable et fantomatique. Ça va être là la marge de progression, peut-être trouver une assise. Peut-être pas repasser à 3 derrière, mais faire une fausse défense à 3 comme l'Allemagne peut le faire, comme l'Italie peut le faire avec Di Lorenzo. Mais il va falloir que Southgate travaille quand même, parce que sincèrement, sur le début de l'Euro, pour moi, c'est un début où les propositions tactiques sont récompensées pour l'instant. Est-ce que ça va être une vérité absolue sur toute la compétition? Je sais pas. Mais je sais pas si Bellingham va pouvoir faire des miracles. Foden dans une mauvaise position aussi. Un Bukayo Osaka qui a été plutôt bon en première mi-temps. Est-ce qu'il va pouvoir être autosuffisant sur des rencontres clés? Moi, pour l'instant, il y a un point d'interrogation quand même. Ce match-là me met la puce à l'oreille sur pas mal de choses.
Alors, j'aimerais que Julien, tu nous donnes ton avis sur 2-3 joueurs. Comme ça nous permet de démarrer l'évaluation ensemble. Qu'est-ce que tu dis? Bon, Bellingham, homme du match, parce que tout le monde est d'accord, on peut y revenir, hein, il est indispensable.
Ouais.
Harry Kane, t'en dis quoi ce soir?
Alors, moi, je trouve ça fascinant, Harry Kane, parce qu'on l'a dit hein, déjà, 2 touches de balle en lors des 45 premières minutes, par exemple, Mladenovic qui entre en jeu à la place de Kocic à la 43e minute pour les Serbes, il touche 9 ballons en première période, en 2 minutes. Mmh. Enfin, 2 minutes plus les 2 minutes d'arrêt de jeu. Kane, c'est 2 ballons sur les 45 plus 2 de la première période. Donc déjà, ça, en soi, c'est une incongruité incroyable. C'est impossible qu'un des meilleurs attaquants du monde ne touche le ballon
que
2 fois.
Surtout que c'est pas un numéro 9, c'est pas Batistuta, hein, c'est un numéro 9 qui participe au jeu d'habitude.
Ouais, non, c'est pour ça, si tu me laisses juste finir. C'est ça en fait le truc. Le problème de la position de Bellingham et de celle de Foden dans un sens, parce que Foden, tu voyais clairement qu'au début, il essayait de chercher un petit peu ce rôle central entre les lignes, c'est que tu bouges finalement. Tu bouges la zone pour ce que Ken fait de très bien, comme tu viens de le dire. C'est ça, c'est là où il est très fort. C'est quand il décroche et qu'il trouve ses passes, etc. Le problème, si Bellingham est dans cette zone-là, voire parfois à Foden, il n'y a plus la place pour Ken, finalement, de décrocher et de jouer ce rôle-là. Et donc, il reste dans cette position très haute. Alors, en plus, aujourd'hui, il avait les 3 Cerbères autour de lui. Ça doit être un cauchemar absolu pour n'importe quel attaquant, hein, d'avoir Milenkovic, Pavlovic et tout ça sur le dos, certes. Mais en plus, tu lui enlèves là où il peut être très fort et peut t'apporter quelque chose, notamment dans la construction du jeu. C'est pour ça aussi qu'il va falloir être intelligent sur l'utilisation de Bellingham dans le prochain match maintenant. C'est-à-dire que oui, il peut être très fort, il marque un but parce qu'il fait cet appel-là, cette course-là dans la surface, très bien, même si le centre est dévié. Hein. S'il n'y a pas la déviation sur le centre, je ne sais pas si ça finit en but comme ça finit d'ailleurs. Mais voilà, donc tu veux le meilleur pour Bellingham, mais tu veux aussi garder le meilleur de Kane. Et ce soir, il n'y avait pas le meilleur de Kane du tout, quoi. Donc ouais, c'est ça qui est un peu décevant pour Kane ce soir.
Je suis d'accord.
Bon, il faut Foden pour.
Foden décevant, moi.
Pour conclure, tout le monde est d'accord pour dire que.
C'est mon chouchou, mais décevant, mais mal utilisé pour moi. Mal utilisé.
Je pense qu'il y a la déception sur ces joueurs-là, que ce soit Kane ou Foden. Moi, je suis pas inquiet pour le coup. Enfin, pas inquiet. Si, il va falloir régler des choses du côté de Southgate, mais je suis pas inquiet. C'est pas les joueurs eux-mêmes. C'est pas une histoire d'attitude ou de. Donc moi, je garde ma confiance pour les deux, parce que pour tout dire, j'ai mis Kane meilleur buteur de l'Euro et j'ai mis Foden dans pas meilleur buteur, mais pas loin. Enfin, buteur en tout cas, parce que je j'y crois fortement. Donc, je suis plus effectivement sur la thèse de la mauvaise utilisation et du, on va dire, de mauvais mood de ce match-là de ce soir. Et je pense que du Foden, on va voir, mais de le voir si bas et si loin de cette position centrale haute qu'il devrait occuper, effectivement, ça n'allait pas.
Après, donc, au-delà de l'utilisation, je trouve que Foden, notamment en deuxième mi-temps, il a une ou deux transitions où il doit faire la bonne passe dans le bon timing, où c'est pas le cas. Et c'est surprenant de sa part. Là, c'est pas à gauche ou droite. C'est que il a notamment Gallagher. Il lui met un ballon un peu dans les chaussettes derrière lui et que ça peut faire but derrière. Ouais. Ça peut faire grosse occasion.
Alors là, faut voir aussi dans ces débuts d'Euro pour revenir à l'histoire du physique. T'as à la fois ceux qui sont cramés. Effectivement, peut-être qu'il faudra surveiller pour une compète longue par rapport à la saison. 57 matchs joués pour certains déjà. Je crois que c'est Rice qui est dans ce cas-là. Et puis t'as ceux après qui sont avec la petite prépa que tu t'es réinfligé, enfin,
oxygéné,
et que tu payes surtout au premier match. Donc là aussi, dans certains matchs, on en voit même côté Pays-Bas. Si tu regardes bien, tu as aussi des fois des moments dans le match où tu as des creux qui, à mon avis, sont un peu gérables. Et pour ces équipes en plus, pour en avoir parlé avec un préparateur physique, pour celles qui veulent aller loin, qui pensent aller loin, c'est très différent d'être un outsider. Je te prends la Hongrie au hasard. Qui n'est pas destiné à aller loin et qui va se préparer physiquement, même s'ils ont été mauvais, pour être à bloc dès le premier tour, alors que eux doivent être à bloc. Je parle des Pays-Bas, la France et tout. Ils doivent être à bloc et atteindre leur pic de forme, comme on dit en mars pour la Ligue des Champions. Bah eux, c'est là dans 10 jours ou dans 15 jours. Donc là, pour le coup, il y a la fatigue. Ça, faut mesurer ce qu'est la fatigue de la saison et ce qui est le, on va dire, le petit rebond là de début de compète après la prépa qui a, même si elle a été courte, qui a eu lieu dans les différentes sélections. Et là, on a des joueurs qui, effectivement, manque de jus, manque de gaz, et ce qui explique peut-être aussi certaines erreurs techniques. Après, ce qui fait la diff dans ces cas-là, et ce qu'on a vu depuis le début de l'Euro, c'est la qualité du jeu de passe. C'est-à-dire que l'Allemagne, il y a une qualité de passe qu'on voit plus. Et quand on voit City, tu vois, on a des qualités de jeu de passe que malheureusement, nous, en Ligue 1, par exemple, on est faible cette année sur cette qualité-là. Et ces sélections-là, qui en fait se fatiguent moins que les autres, qui courent moins que les autres, c'est ces sélections-là qui vont, à mon avis, faire la diff dans l'Euro.
Julien, merci beaucoup.
Merci les gars.
On va te laisser, oui, Julien. Et on se retrouve très vite évidemment avec toi. On va dire un mot de
l'île de Ré est obligée d'attendre alors l'arrivée avec l'Euro, avec l'actu.
Le 15 juillet. J'y serai le 15 juillet.
Tu vois, direct. Voilà. Bah, la finale. Tu seras arrêté.
Exactement. Après la victoire de l'équipe de France.
Il y a un joueur dont on a un peu parlé, Gilbert, c'est Declan Rice, qui a fait aussi un super match. J'ai trouvé très, et lui, il va être très important dans l'équilibre pendant tout cet Euro. La première heure de jeu.
On n'a pas parlé du but de Bellingham, oui, le coup de boule qui met, très magnifique.
Très alors, très moi, je disais sur cette action que l'engagement que tu mets sur ce coup de tête, il est remarquable parce que, franchement, tu peux y laisser ta tête, quoi, dans la tête de l'adversaire. Mais parce que. Il passe tellement devant avec de la détermination. Non, mais je trouve que c'est intéressant de voir que le mec se regarde pas jouer. C'est-à-dire que tu as tellement de joueurs qui s'adorent, si tu veux, qui savent qu'ils sont très forts techniquement, dans l'attitude quand ils ratent un truc, dans le dépit qu'il montre, dans l'attitude là qu'il a eu pour mettre cette tête à l'ancienne.
Même
on va
un
dire.
Peu trop de détermination, parce que j'ai pas trop aimé le petit coup de coup d'épaule qu'il fait à Kostić pour rien du tout.
Ouais, mais je trouve que ça montre aussi beaucoup de ce qu'il est mentalement. Ouais. C'est-à-dire que.
Il remonte, je suis là, quoi.
Il est pas là à se regarder, à dire si tu veux, suivez mon regard, non, moi je fais pas ce replacement-là, je fais pas cette récup.
Défensivement, c'est.
Le
nombre de ballons qu'il a grassé.
C'est en ce sens que je trouve que par rapport à tous les joueurs dont on parle, je parle de la jeune génération. C'est
des millionnaires pendant tout le match.
Et ces mecs-là qui font ce taf-là à la Griezmann, par exemple, ce gars-là qui est toujours aujourd'hui fait la même chose défensivement et tout, je trouve que dans son attitude et l'attitude sur le but, avec ce coup de boule incroyable où il a failli tout emporter, y compris la tête de l'adversaire, c'est remarquable.
Merci Julien, bonne soirée.
Ouais, 20 ans, c'est énorme. C'est incroyable.
Merci, bonne soirée. Tiens, un mot de la Serbie. On a Lazare avec nous, qui est un habitué de l'After, qu'on retrouve, cofondateur du fameux mouvement Football Ski, que vous retrouvez sur les réseaux sociaux. Lazare, bonsoir.
Salut les gars, bonsoir.
Bon, Lazare, il peut te parler de toutes les équipes qui sont à peu près à l'est de Vienne. Hein, Pologne, Hongrie, Roumanie qui joue demain, par exemple. Slovénie qui a joué aujourd'hui. Mais là, on va dire un mot de la Serbie, quand même. C'est loin d'être une équipe pourrie, hein, la Serbie. D'ailleurs, je pense qu'ils auront des regrets ce soir. Est-ce que toi, tu as vu la Serbie que tu as l'habitude de voir sur ces derniers matchs ce soir face à l'Angleterre ?
L'habitude de voir une équipe serbe, c'est compliqué. Tant il y a eu de changements ces dernières années. À chaque match, on a eu une petite surprise, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que il y a eu un sélectionneur qui s'est quand même trompé dès le début avec une entame de match qui a été catastrophique, ou en tout cas très compliquée. Il y a eu beaucoup de changements apportés au fur et à mesure du match. Et on a pu voir un second visage, une équipe beaucoup plus motivée en seconde mi-temps. Et ça, il faut rendre à Stojkovic le mérite là-dessus. Il arrive à créer des memes avec des têtes absolument extraordinaires, mais il a aussi réussi un petit peu à changer le cours de jeu avec des entrants qui ont apporté des choses. Bon, vous avez évoqué Mladenovic, mais surtout Tadic, où on a pu avoir du liant dans cette équipe, avec le manque de numéro 10 en début de match, le manque de créativité, c'était compliqué, on avait des blocs séparés. Là, avec l'entrée de Tadic, on a pu avoir de la création, on a pu avoir des éclairs de génie, enfin pas de génie, mais des petits coups qui font que ça aide l'équipe à se mettre en place et envoyer du jeu vers l'avant.
Et tu es d'accord que, moi j'ai trouvé Mitrovic décevant, fatigué, sorti à la 60e, pas bon sur l'erreur d'Alexander Arnold dans sa précipitation.
Mitrovic, c'est un joueur qui a toujours eu certaines caractéristiques, c'est-à-dire qu'il est fort avec les faibles et faible avec les forts. Si on prend l'entièreté de sa carrière internationale, ça a toujours été comme ça. Et encore une fois, aujourd'hui, en Arabie Saoudite, dans un championnat mineur, il est très fort. Quand il était en championship, il était très fort face à des défenses inexistantes. Mmh. Et donc, c'est un peu ce problème. Il a un physique de déménageur. Il peut jouer là-dessus dans de nombreuses configurations. Et donc, si on prend les stats dans des championnats un peu mineurs, plus faibles, il va exploser. Et quand il a en face de lui des clients, c'est plus compliqué.
Bon, moi, je vais te dire, vu l'autre match du jour, Danemark-Slovénie, moi, les Serbes, je pense qu'ils peuvent largement passer deuxième de ce groupe. On verra, mais bon.
On va voir la confrontation.
Il y a eu de très belles choses.
Quoi, Danemark-Slovénie?
Ça, il n'y a pas à dire.
Non, il parle de la Serbie.
Non, là, ce soir.
Ah oui, d'accord.
De la Serbie, on va rester là-dessus.
Moi, je les estime au-dessus des Danois et des Slovènes.
Ils ont été beaucoup moins ridicules que lors de la Coupe du Monde. Avec un schéma tactique plus intéressant, ils sont l'équipe la plus grande de Stero, on l'a vu, ils ont envoyé d'énormes ballons devant pour aller chercher les têtes de Mitro ou de Vlahovic.
Après,
ils ont envoyé
du matériel
jeu, ce qui n'était pas gagné d'avance.
Vu le matériel que t'as, c'est pas non plus dinguissime non plus. Hein. C'est-à-dire que ce soir, ils font un peu chier l'Angleterre, mais dans l'approche, notamment sur la première mi-temps, ils ont été obligés à 1-0 de véritablement jouer au football parce que avant ça, le comportement n'était pas, avec le ballon, n'était pas dinguissime. Hein.
Ah, on est d'accord. Mais du coup, l'arrivée de Tadic sur le terrain leur a aidé à garder le ballon et à créer du jeu, ce qu'ils n'avaient pas aussi avant. Parce que dès que tu avais le ballon, tu ne savais pas quoi en faire. Donc, tu balançais devant pour espérer que Mitro ou Vlahovic soient capables de faire un espèce d'exploit personnel devant. Parce qu'il n'y avait personne pour un peu apporter ce danger. Et donc, après, ça, c'est compliqué,
c'est
aussi.
Tu as raison, c'est ce qu'on a vu, et c'est vrai que sur les occasions, ça n'a pas été énorme, à part ce centre qui est passé devant le but. Mmh. C'est des frappes,
ouais.
Beaucoup de frappes, et notamment celle déclenchée par Vlahovic, ouais, 20 mètres. Donc, c'est vrai aussi qu'ils n'ont pas réussi, alors qu'il y avait, à mon avis, des moyens de le faire. Je pense qu'ils ont été un peu surpris, finalement, d'avoir aussi vite, après le premier quart d'heure, la possibilité de gêner les Anglais, qu'il a fallu attendre la mi-temps et la petite remobilisation, discours, effectivement, les changements. Participer, mais je pense que quelque part ce match va leur donner de la confiance, moi, pour la suite de l'Euro, comme disait Gilbert, par rapport à l'autre match et par rapport à ce qu'ils ont montré contre les Anglais ce soir.
Merci Alain.
Ça, c'est indéniable. Et sur...
En espérant voir Tadic sur le terrain.
Vas-y, tu peux finir ta phrase, hein. Excuse-moi, je pensais pas que tu voulais.
Je voulais dire que le fait de Kostic blessé vient aussi changer la donne, où tu as un Mladenovic qui va être obligé de commencer à gauche et qui t'apporte une confiance et une sérénité défensive que tu n'as pas autrement.
Si vous voulez tout savoir du football des pays de l'Est, vous allez sur footballski.fr ou sur les réseaux sociaux, bien sûr, et vous retrouverez Lazare et ses potes. Merci Lazare, bonne soirée.
Tous les footballeurs qui finissent par ski.
Salut à tous, bonne soirée.
Exactement, il y en a plein.
Janowski.
Janowski, t'as ressenti Janowski?
Comme ça, au hasard.
Ouais. Jean-Kulowski. Lewandowski, peut-être quand même.
C'est vrai. Tous les footballeurs qui vont au ski dans l'Est, c'est incroyable.
Il y a aussi Tomanski, mais il est moins connu. Dans un instant,
Gilbert Bribois au ski.
Il y a Blachikowski.
Oui, ouais, aussi.
Groziki. Non, c'est pas ski.
Ah non, c'est pas ski. Ouais. Non, c'est il fait pas ski.
Ouais, il va pas au ski.
Dans un instant, les Pays-Bas avec Yann Crochet. Et ensuite, l'équipe de France, bien sûr. On est là jusqu'à minuit et demi. Et dans la foulée, c'est la Libre Antenne qui suivra de 1h30 à 1h30, Libre Antenne de l'After, comme tous les soirs de l'Euro.
RMC jusqu'à 1h30. L'After Foot, intégral Euro.
Gilbert Bribois.
23h41, Florent Gautreau est là, Walid Acherchour est là, Yoann Crochet nous rejoint. Yoann, bonsoir.
Salut Gilbert, bonsoir à toutes et à tous.
Et oui, le groupe de la France a commencé cet après-midi avec Pays-Bas-Pologne, victoire des Néerlandais 2-1. Yoann, bon, je pense que tu n'as pas été impressionné par les Hollandais aujourd'hui.
Non, mais c'est un... Ça ressemble un peu à un match de l'Italie d'hier quand même. Parce
oui,
que
c'est
en
vrai.
Mi-temps, ouais. En première mi-temps, les Néerlandais font vraiment un bon match. Alors, il y a cette ouverture du score sur coup de pied arrêté. Il faudra d'ailleurs faire très attention du côté de la France sur cette phase de jeu parce que c'est l'équipe qui a créé le plus d'expected goals sur la phase éliminatoire à l'Euro sur cette phase de arrêté, corner, coup franc, direct, indirect. Donc, il faut faire très attention à ça. Et les Pays-Bas ont multiplié d'ailleurs au cours de la deuxième mi-temps les fautes un peu bête sur les côtés, offrant des coups de pied arrêtés rentrant à 20-25 mètres, légèrement décalés. Donc ça, c'était en termes stratégiques, je trouve qu'ils ont mal joué le coup. Mais en dehors de ça, la première mi-temps, ils l'ont vraiment maîtrisé. Ils ont eu beaucoup d'occasions. Chesney a fait encore un gros match. Voilà, on sait la capacité qu'il a à être présent dans les grands rendez-vous et il est toujours là, Chesney, qui va sans doute quitter la Juve cet été. Et après, en deuxième mi-temps, ça a été beaucoup plus compliqué. On a le sentiment qu'ils ont été de plus en plus nerveux en voyant le temps s'écouler et leur difficulté à se créer des occasions. Parce qu'autant en première mi-temps, ils en ont eu pas mal. Autant en deuxième mi-temps, ils n'ont pas eu beaucoup d'occasions. Et Koeman a réussi à changer un peu les choses avec ses changements. Alors, pas le changement de Wijnaldum, hein, parce que c'est catastrophique. Hein. Il joue avec un déambulateur maintenant. Et alors, je vais vous dire, ce soir aux Pays-Bas, il se fait assassiner. Il a touché 6 ballons en 28 minutes. Hein. Donc, c'est pour vous donner une idée du fantôme qu'il a été. Mais par contre, Verhorst a apporté, Frimpong a apporté sur le côté droit. Et d'ailleurs, je ne serais pas surpris que Frimpong débute la prochaine rencontre parce que, aussi bien Dumfries sur la phase défensive, on sait que Frimpong peut jouer à deux postes, arrière droit ou ailier droit.
Mais il l'utilise un peu plus haut à chaque fois.
C'est-à-dire que Xavi Simons n'a pas été à la hauteur.
Il est décevant, Xavi.
Non, Simons, il n'a vraiment pas été bon.
Ouais.
Et comme il a des gros doutes, Koeman, sur la capacité défensive de Frimpong, il l'utilise plus haut. Mais Dumfries a été tellement en difficulté aussi aujourd'hui défensivement qu'il pourrait le remplacer. Enfin, il pourrait remplacer aussi bien Dumfries que Xavi Simons sur le prochain match. Mais en tout cas, grâce au changement, il y a une vraie différence. Ça a ramené de l'énergie. Et puis surtout, il y a quelque chose, c'est que autant Memphis t'apporte des choses dans le jeu quand il décroche, autant quand il n'est pas trouvé entre les lignes et que lui devient un petit peu plus statique, bah quand tu arrives aux abords de la surface et que tu as besoin de mettre un peu le ballon dans la surface ou créer des combinaisons et que lui n'est pas là, bah on a vu des Cody Gakpo, des Denzel Dumfries, des Xavi Simons arriver sur le côté, lever la tête et puis voir que des Polonais. Donc ça a été aussi compliqué à ce niveau-là. Et c'est vrai que quand Verhorst rentre, ah, tu joues un ballon vertical sur lui, il n'a même pas besoin de contrôler, il frappe, il marque. Hein.
Et c'est marrant parce que ça m'avait pensé, alors toi tu parles de l'Italie pour l'histoire du match, et pour la rentrée de Weghorst, ça m'a fait penser à Füllkrug, parce que si tu veux, et je l'ai vu entrer en match amical dans les mêmes circonstances, non, récemment, ouais. Il me semble, et marqué, hein, c'est,
oui,
ça,
oui.
Et vraiment, c'est pour ça que tu dis toujours de ces joueurs, il faut les mettre d'entrée, les mecs sont bons, mais quelque part c'est aussi leur force et leur rôle, quelque part, donc tu sais jamais s'il ne faut pas les laisser en impact player comme ça, parce qu'il a vraiment cette façon.
Parce qu'ils n'ont pas profité du travail de Sap sur les 60-70 premières minutes pour derrière tirer son épingle du jeu.
Après, ce qui est étonnant sur cette phase, c'est que, mais intéressant aussi, si tu la reprends, c'est que Nathan Aké fait ce centre finalement assez directement dans la surface alors qu'il a un dédoublement.
C'est un peu contré, non?
Oui, elle a un tout petit peu contré.
C'est légèrement dévié le ballon.
Mais néanmoins, dans la façon de jouer, si tu veux, je pense que c'était dur à défendre parce que tu t'attendais à ce que l'action continue. Tu vois, le dédoublement était bon côté gauche. Le centre quelque part était un peu anodin, si tu veux, mais il est transformé par un œuf. Là on parle de d'équipes qui peuvent marquer, tu vois. Hier on se posait la question pour l'Italie et Johan, là tu as une arme en plus sur le banc pour ça. Je trouve que
il a été très intéressant. Hein.
Bah, de toute façon, le côté fort des Pays-Bas, c'était le côté gauche, hein, avec Aké et Cody Gakpo. C'est vraiment les deux qui ont été
une bonne première mi-temps aussi.
Ouais. Et d'ailleurs, il n'était pas très content de sortir. Il a secoué un peu la tête et il a été interrogé à la fin du match sur ça. Il a dit, j'ai pas trop compris pourquoi je suis sorti. J'avais pas l'impression d'avoir fait un mauvais match. Et ce qui n'était pas le cas, parce qu'il a été élu homme du match d'ailleurs. Mais Ake et lui ont été très bons. Milieu de terrain, pas hyper convaincu, mais de toute façon, il faudra faire avec ça.
Parce que
t'as pas Kopmeiners et t'as pas Frankie de Jong. Donc
moi, j'ai été séduit par ton gardien, puisque t'avais quelques doutes sur lui, c'est ça?
Ouais, bien sûr. En fait, les trois gardiens, si tu veux, ils ont à peu près le même niveau. C'est-à-dire pas excellent, pas ridicule. Ça peut être des bons gardiens sur des jours où ils sont en forme. Et effectivement, moi, j'ai été, je vais pas dire surpris, parce qu'il avait fait aussi des bons matchs à Brighton. Je l'ai vu aussi en difficulté à Brighton. Mais en tout cas, tu as raison de le souligner, il a été très bon vers Bruggen ce soir.
Après, globalement, la victoire, elle est logique. Parce que sur la première mi-temps, tu l'as dit, le corner, c'est quand même contre le cours du jeu. Même si la Pologne s'est créée 2-3 situations avec Verbruggen qui a été plutôt bon. Dans la production, dans les intentions, quand même, les Pays-Bas ont été.
On est permis de redécouvrir que Buxa appartenait à Lens.
Mais apparemment, il met des buts à la Diaspora.
Ce que j'ai trouvé intéressant par rapport à d'autres
équipes. Lewandowski devrait revenir en prochain match. Donc, contre la France,
ce qui est intéressant, quand même, c'est une arme comme une autre, mais par rapport à. Quand tu sais que tu vas subir, tu risques d'être moins fort que l'adversaire, je trouve que ce que la Hongrie n'a pas fait, alors qu'on me les avait annoncés fort sur les coups de pied arrêtés, là, tu vois, dès ce début du match, mettre ce but sur corner, bon, derrière, ça n'a pas suffi, et tant mieux, je dirais, les meilleures équipes à gagner, mais c'est quand même une force, enfin, un point qu'il faut utiliser. Tu parlais de ça, Johan, tout à l'heure. Ce joueur-là, il est bon pour ça, pas seulement d'ailleurs, parce que derrière, il aurait même pu leur servir, tu sais, de point de fixation pour aller faire remonter le bloc et tout. Bon, tactiquement, c'était pas inintéressant, mais il y a des limites, quoi. Après, voilà, tu joues. Tu sais, t'es pas à l'abri de t'en sortir en foot avec un partout.
Oui, bien sûr. Mais globalement, les Pays-Bas, sur la première mi-temps, la maîtrise, le nombre d'occasions, t'as même Fils de Paille quand même quand ça cache une très très belle en première mi-temps. T'as Verman qui arrive aussi en deuxième lame en retrait, qui doit faire mieux. T'as quand même pas mal de situations. Chesney qui sort la parade sur Van Dijk là sur le corner. Donc sur la majeure partie de la rencontre, des incorporations de Dumfries, même si je trouve qu'il a été très brouillon dans le dernier geste.
C'est comme défensivement, Zalewski lui a fait voir exact, ce qu'il voulait. Hein.
Exactement. J'ai aussi repensé pendant le match, pendant qu'on y est, que Zielinski allait aller à l'Inter Milan pour zéro. Ça, c'est quand même encore l'Inter, c'est encore fou. Mais parce que j'ai trouvé son abattage encore très intéressant dans une équipe.
Alors, regarde le côté gauche. On parlait du côté gauche des Pays-Bas. Regarde celui de la Pologne. Hein. Kivior, Zalewski et Zielinski qui est centre gauche. Ça a été aussi le côté fort de la Pologne. Hein.
Mais voilà, après, moi, les Pays-Bas, je les attendais. Je me disais, purée, attention au crash, parce qu'avec les blessures, le manque de fiabilité sur les grosses compétitions, c'est quand même important pour eux d'aller chercher cette victoire contre la Pologne, qui te. Allez, dans ce format 24, qui te qualifie à 80%. C'est de bon augure.
Ce qui est intéressant, c'est de voir que sur ce match-là, peut-être avec une configuration particulière et sans doute qu'il s'attendait à beaucoup de longs ballons, il a choisi Stéphane De Vrij aux côtés de Van Dijk, mais je ne suis pas persuadé que sur le reste de la compétition, ça sera comme ça. Même si Koeman, en avant-match, a dit à aucun moment, j'ai hésité à mettre une autre composition où pour moi, c'était très clair dans ma tête très rapidement. Le manque de mobilité des deux axiaux quand même sur la partie de la deuxième mi-temps où ça souffrait un peu.
Moi j'aimerais bien voir Van de Ven. Moi c'est mon chouchou Van de Ven. J'aime beaucoup le joueur, mais j'espère qu'il va avoir des minutes dans cette
pour le moment. Walid, il l'utilise arrière gauche.
J'ai vu.
Mais à l'instant, sur une évaluation, on se concentre principalement sur les Pays-Bas parce que c'est le prochain adversaire
juste
après l'Autriche de la France.
Un petit mot parce que tu parlais du côté gauche et du très bon match du capitaine Zielinski. J'étais un peu surpris qu'il sorte. Alors je sais pas si c'est un problème physique. À la 77e, si tu regardes bien, il perd le but quand même 6 minutes après. Les Polonais. Et je trouve qu'il le sort pour le coup. On dit parfois que les changements sont faits trop tard, mais à mon sens, ils se sont un peu coupés une jambe.
Allez, dans un instant, évaluation avec Johan, et ensuite on parlera de l'Autriche avec Paulo Breitner et de l'actu des Bleus, dominé, une fois n'est pas coutume, par la politique aujourd'hui. A tout de suite dans l'after.
RMC, jusqu'à minuit 30, l'after foot, intégral euro.
Gilbert Bribois.
Florent Gautreau est là, Walid Acherchour est là, Johan Crochet est là également, car on parle des Pays-Bas, adversaire de la France vendredi prochain. Bien sûr, on est très intéressé par l'avis de Johan. Bon, on a vu le match nous aussi, mais on aimerait faire une évaluation ensemble. Que dire du match de Paille, Johan? Comment tu l'évalues?
Moi, j'aime bien tout ce qu'il propose dans le jeu, parce qu'on l'a vu en première mi-temps, techniquement, c'est lui qui faisait des différences, même en décrochant assez bas, hein, sur le côté gauche, sa zone préférentielle aussi. J'aime ce qu'il apporte dans ce rôle de faux neuf, et Koeman lui fait vraiment confiance en ce sens. Après, quand il marque pas, tu peux toujours dire, voilà, la grosse occasion où il met cette demi-volée largement au-dessus, plein axe, c'est un peu dommage. Moi, je trouve qu'il fait un bon match. Après, si on évalue un attaquant par le nombre de buts, évidemment qu'il va manquer quelque chose. Mais moi, je trouve qu'en première mi-temps, il a vraiment apporté quelque chose à cette équipe des Pays-Bas.
Ouais, c'est toujours de toute façon la même chose avec Memphis Depay, c'est qu'il va t'apporter pas mal dans le jeu, mais parfois je trouve qu'il se regarde un petit peu trop et qu'il est pas assez méchant dans le dernier geste. Maintenant, moi, j'aimerais bien l'accompagner d'un joueur de surface. Après, comment outiller ça sur le trio d'attaque comme que maintenant envie de le faire, c'est pas évident.
Compliqué parce que la seule option, c'est à ce moment-là, c'est de mettre Depay à gauche, mais tu peux pas enlever Cody Gakpo de sa position préférentielle.
C'est ça.
Tu pourrais faire un 4-2-3-1, mais est-ce qu'aujourd'hui, en l'absence de De Jong et Kopminers, t'as un milieu de terrain suffisamment à l'aise et robuste pour jouer à deux? Je suis pas persuadé non plus. Ouais. Donc t'es un peu coincé par les défections au poste de milieu de terrain. Et puis
quand même qu'il lui manque un coup de rein quand même là.
C'est-à-dire que
sur les passes, sur la vision, la vista, il va toujours faire son petit sa petite spéciale là sur le côté. Il est capable sur quelques mètres, mais pour emmener quand t'es en transition pour accompagner, des fois j'ai l'impression qu'il a plus la même vitesse. Bon, ça n'a jamais été le joueur le plus rapide
que les autres. C'est surtout que Gakpo et Simmons vont particulièrement vite.
Exactement,
donc lui...
peut-être aussi.
Ouais, après, il y en a d'autres un peu moins connus. Enfin, Tijani Reinders, là.
Reinders, moi j'adore.
On va reparler de Reinders dans quelques instants, mais vous le savez, c'est l'alerte pour gagner vos places pour France-Pologne le 25 juin prochain à Dortmund. C'est l'expérience RMC. On vous offre l'avion, les places de match, la totale. Pour participer, vous envoyez euro par SMS au 732-16. Euro par SMS au 732-16. Bonne chance. Donc je reviens à Reinders. On parle moins de lui que des trois autres offensifs, là, parce qu'ils sont plus connus.
Beau joueur, ouais. Mais après.
Avec Uwe Reinders.
Oui,
et je crois une autre génération.
Il fait des choses utiles pour le collectif. Maintenant, je suis pas non plus transfiguré par sa performance ce soir. Moi j'ai préféré Aké, j'ai préféré Harpo. J'ai bien aimé l'entrée de Frimpong.
Non, mais après moi je trouve que c'est le milieu de terrain qui apporte le plus de choses. Je trouve qu'il est extrêmement mobile, qu'il est présent aussi bien à la construction du jeu où il peut descendre assez bas sur le terrain et aussi dans les zones un peu plus hautes du terrain quand il faut faire un peu plus la différence. Et d'ailleurs, on le voit, le petit extérieur du pied en une touche qui fait la différence, qui fait le décalage en tout cas au milieu de terrain pour Aké, qui amène le but ensuite, ça vient de lui. Parce qu'il est capable de ça. Et moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, qui est en train de progresser vraiment à Milan. Et qui va continuer à progresser et qui va devenir, moi je le vois tout à fait capable, même avec Kopminers et De Jong, de s'installer dans un milieu à 3 sans problème des Pays-Bas. Et en plus, ce qu'il n'utilise pas assez, qui m'a même un peu agacé aujourd'hui, il a une très bonne frappe de balle assez sèche, et plusieurs fois il est à 18 mètres, 20 mètres, il veut remettre dans l'axe plutôt que de tenter une frappe enveloppée. À un moment donné, il va falloir qu'il prenne cette habitude-là aussi, quand tu as un tir assez intéressant, de un peu plus tenter sa chance et de ne pas être toujours à la dernière ou à avant-dernière passe.
Johan, les gars, je ne sais pas si vous avez. Parce qu'on n'a pas parlé de Danemark-Slovénie, mais vous avez envie de dire un mot de ce match?
Oula!
Il n'a pas été. Moi, j'ai trouvé que c'était l'un des matchs les plus. Pas ennuyants, mais presque depuis le début de l'Euro. J'étais un peu déçu, moi, de l'équipe du Danemark.
Oui, ouais, c'est ça qu'on retient.
Ouais, j'étais
pour la Slovénie, évidemment.
Non, parce que sur la deuxième mi-temps, la Slovénie, équipe, quand même, ils ont des situations, ils ont des occasions.
C'est un scénario qu'on a quand même connu dans plusieurs matchs depuis le début de l'Euro. C'est-à-dire que tu as une équipe. L'équipe supposée censée être la plus forte qui domine, qui prend le jeu à son compte et qui est, on va dire, au niveau où on l'attend. C'était le cas du Danemark sur le début du match. Mmh. Et qui s'éteint un peu progressivement. Oui. Et quand elle n'a pas fait la diff, cette équipe supposée plus forte à
la balle de 2-0 de Ilun qui est très importante.
Quand tu n'as pas fait le break, et ben derrière, tu as l'autre équipe qui se dit, mais en fait, on peut le faire. Et là, la Slovénie, derrière, honnêtement, elle mérite largement.
T'as la barre de Chesko qui, avant l'égalisation, qui les remet un peu dedans.
Dans les erreurs, tu sais, ça devrait être les expected erreurs, c'est-à-dire que les expected faiblesses. Je peux te dire que Schmeichel, on l'a déjà vu, puisqu'on l'avait vu en Ligue 1, rien que sur la première frappe de Chesko, qui passe à côté. Tu regardes son jump et son, sa façon de se déplacer sur le côté. De toute façon, il était mort s'il était cadré. Ouais. Et que ça, on va aussi en entendre parler.
Il y a beaucoup de gardiens qui étaient morts sur la frappe de Chesko.
Ouais, mais malgré tout, vite, hein. Malgré tout, ce qui est intéressant, c'est de
attention
voir comment
à la fixette, Flo, sur Schmeichel.
Ben, moi, j'ai trouvé qu'il y a des, il y a des points de faiblesse. Tu verras. Moi, à mon avis,
c'est. Ah, mais c'est moi, je te dis que t'as pas mieux sur le banc.
Ah non, peut-être, ça c'est une chose, mais je parle vraiment pour l'équipe par rapport aux trucs qui peuvent te limiter.
Mais sur les 15-20 dernières minutes, t'as Sporar qui a une grosse occasion, t'as 2-3 situations sur le côté là qui terminent petit filet, mais qui peuvent faire beaucoup mieux pour la Slovénie. Et j'ai trouvé que dans les changements de Danois, même dans ce qu'ils ont montré au fur et à mesure de la rencontre, j'ai pas été transporté.
Tous les joueurs, mais sincèrement, pour en connaître beaucoup et les suivre depuis longtemps, même quand ils sont au Danemark, il y a vraiment des bons joueurs dans cette équipe. Hein. Vraiment, mais même par rapport à certaines plus grosses nations, quand vous avez un Højbjerg, quand vous avez un Eriksen, un Jonas Vindt, un Rasmus Højlund, un Christiansen qui est titulaire à Bologne, un Alexander Bach qui est titulaire à Benfica, Morten Hjulmand qui a été exceptionnel au Sporting, il y a vraiment matière à faire autre chose que la bouillie de foot qu'ils nous ont proposé aujourd'hui. Donc j'espère que c'est le petit accident d'entrée d'Euro et qu'ils vont se réveiller, mais ça peut vite tourner comme la dernière Coupe du Monde aussi.
C'est quoi le deuxième match?
Bonne question.
Ils jouent l'Angleterre direct ou ils jouent
c'est l'Angleterre.
Ah, c'est l'Angleterre.
Ouais, attention.
Merci Johan.
Merci à vous.
Bonne soirée, à très vite. Sûr, merci, dans un instant, Polo Breitner va nous dire ce qu'il pense de l'Autriche qui joue demain face à la France. Il suit l'Autriche de près, Polo. Et puis les Bleus dans la dernière demi-heure de l'after avant la libre antenne qui arrive à minuit et demi. On se retrouve dans deux minutes pendant lesquelles je vous conseille d'aller faire un tour sur l'after.media. Vous pourrez, c'est la fête des pères aujourd'hui, vous abonner à la revue de l'after pour moins de 4€ par mois. Autant dire que c'est donné. Le numéro actuel en kiosque est disponible et est consacré au coach avec un magnifique Jürgen Klopp en couverture. Voilà. La revue de l'after, c'est indispensable. Une sorte de membership à la communauté de l'after, Walid. Tu le sais.
Évidemment.
Allez, à tout de suite.
RMC, jusqu'à minuit 30.
L'after foot intégral euro. RMC, jusqu'à minuit 30. L'after foot intégral euro.
Gilbert Bribois.
Il est minuit 4, dans moins d'une demi-heure la libre antenne jusqu'à 1h30 du matin. Demain soir, France-Autriche, France-Pays-Bas, ce sera vendredi prochain. Walid Achercheur est là, Florent Gautreau est là et Polo Breitner, l'homme qui suit l'Autriche de près depuis maintenant des années. Salut Polo.
Bonsoir mon cher Gilbert, bonsoir tout le monde.
Ah tiens, on avait aujourd'hui Nicolas Pelletier, notre reporter, qui est allé en Autriche. Il a fait son petit reportage auprès des supporters. Alors l'Autriche, pays de ski à la base quand même, hein, commence à devenir gentiment un pays de foot. Et il commence à prendre la confiance.
Ouais, enfin, il y a un certain historique quand même en Autriche.
Hein. Oui, là, mais je sors les clichés là, Polo.
Oui.
Bon, les clichés, ça reste un vrai pays de ski.
Ça reste aussi un pays de ski, ouais, principalement. Oui,
évidemment, mais enfin bon, les années 30, la Wunder Team, ça a marqué l'histoire du football quand même.
Mathias Sindelar.
Mathias Sindelar, notamment, mais pas que ça. 54, il y a toujours, évidemment, la génération 78-82 avec Rankel et Prohaska, etc. Mais non, c'est justement, c'est très intéressant le football autrichien. Il y a un livre qui est paru il y a quelques années en allemand, parce qu'en fait, l'histoire du foot autrichien est à l'image de l'histoire de l'Autriche. C'est-à-dire que c'est un pays quand même qui a du mal à avoir accepté le fait, on en parlait, je sais plus, c'était hier, je crois, Gilbert, la disparition de l'Autriche-Hongrie. Et le foot est une façon, en fait, de montrer qu'on existe toujours, en fait. Et il y a beaucoup de conflits. Il y a eu beaucoup de conflits historiquement à la fédération autrichienne avec certains sélectionneurs aussi. Et depuis quelques années, ça va mieux. Comme quoi, il fallait mettre de côté l'histoire. On va dire, on n'est plus les plus grands, etc. L'Autriche-Hongrie, ça n'existe plus. Et on doit essayer, à l'image de la Suisse, de se reconstruire d'une autre façon en cherchant des sélectionneurs qui vont rester plusieurs années. C'est un petit peu le cas de l'Autriche depuis Marcel Koller, notamment.
Alors Rangnick, qui était un coach courtisé à peu près dans toute l'Europe, hein, donc ouais. S'est installé en Autriche. Alors il y a quand même un truc. L'Autriche n'a pas perdu. enfin, n'a perdu qu'une seule fois sur ses 15 derniers matchs, c'était contre la Belgique.
Exactement. Bon. Un match, bon, c'était très avantageux pour l'Autriche parce que le 3-2, en fait, les Belges étaient largement supérieurs. Tu viens de parler de Ralf Rangnick, c'est très important parce que, après, la défaite en demi-finale qualificative pour la Coupe du Monde, le fameux barrage contre le Pays de Galles, il y a un autre match amical, francophone, c'est fini et on choisit Ralf Rangnick. Pourquoi est-ce qu'on choisit Ralf Rangnick? Pour deux raisons. À l'époque, il y avait, selon la presse autrichienne, le clan des Viennois, qui était symbolisé par David Alaba, par Arnautovic, par Baumgartner, qui à l'époque jouait à Hoffenheim, contre le clan, on va dire, de la galaxie Red Bull au niveau du style de jeu qu'on voulait imposer en équipe d'Autriche. Et on s'opposait. C'est pour ça aussi que on n'avait pas forcément, même s'ils avaient fait un Euro 2021 intéressant, rappelez-vous, ils avaient été éliminés en prolongation contre l'Italie. Mais on trouvait pas exactement une identité de jeu, pardon, à l'équipe autrichienne. Et on a choisi Ralf Rangnick, qui est peut-être la plus grande réussite de la fédération autrichienne, est arrivé, ce qui voulait dire évidemment un style de jeu version Hoffenheim, version Leipzig, et donc c'est le clan Galaxy Red Bull qui a gagné. Ça a pris du temps à mettre en place cette identité de jeu. Rappelez-vous quand, lors de la Ligue des Nations, ils n'ont pas réussi à se maintenir, ils avaient commencé par une victoire extrêmement chanceuse contre la Croatie, 3-0 en Croatie, en se disant, c'est parti, parce que la Croatie, c'est pas n'importe quoi quand même. En fait, quand tu vois la rencontre, les Autrichiens n'ont pas existé. Et ils l'emportent quand même 3-0. Donc, logiquement, ils redescendent en seconde division européenne en Ligue des Nations. Mais petit à petit, Rangnick commence à éliminer les joueurs. En 2021, vous aviez en défense centrale Hinteregger et Dragovic. Dragovic, il a fêté sa 100e sélection sous Rangnick, et après, il n'a plus jamais été appelé. Et là, il met des jeunes, notamment Danzo, Linhart, le joueur de Fribourg, etc. Il y avait le cas d'Alaba, évidemment, on se posait des questions. Est-ce qu'on fait jouer dans une défense à trois? Est-ce qu'on le fait jouer défenseur central? Est-ce qu'on le fait jouer au poste d'arrière-gauche? Etc. Et petit à petit, tu vois cette équipe d'Autriche, version Rangnick, donc version Red Bull, qui arrive sur le marché du foot, avec des résultats, avec le fait de ne plus jamais perdre, sauf ce match évidemment contre la Belgique, donc ils finissent deuxième logiquement derrière les Belges, mais c'est très important parce qu'ils battent notamment la Suède, qui est un peu l'équipe qui rencontre souvent l'équipe d'Autriche en qualification, et quand t'as une mauvaise équipe d'Autriche, ben la Suède va en Coupe du Monde ou en Europe, et quand l'Autriche est bonne, elle élimine la Suède, y compris celle d'Ibrahimovic. Et ça, c'est intéressant. Maintenant, regardez le match d'hier soir. Vous avez vu Angleterre-Serbie, ouais, par exemple. Le scénario, donc domination complète des Anglais en première division, en première mi-temps, complètement compliqué en seconde. Et ben, c'est le copier-coller du match Autriche-Serbie, le dernier match amical gagné par l'Autriche 2-1, juste avant l'Euro. Domination complète de l'Autriche pendant plus de 35 minutes. Les Serbes reviennent à 2-1, on ne sait pas trop comment. Et la deuxième mi-temps, les Autrichiens se transforment en clébards et ils tiennent la victoire. C'est un peu ce qu'on va vivre, je pense, demain. Non pas sur le scénario, ça j'en ai aucune idée, mais de voir ce qu'est cette équipe d'Autriche version Ralf Rangnick, c'est-à-dire que pressing, contre-pressing, c'est un 4-5-1, un 4-2-2-2 quand lorsqu'ils sont en attaque. Vous avez un Baumgartner, par exemple, qu'on nous dit qu'il est un meneur de jeu, mais pas vraiment. En fait, c'est le deuxième attaquant à côté d'Arnautovic, logiquement. On aura Zabitzer, Laimer ou Grilic. Vous avez Zewald, qui a fait une très mauvaise saison avec Leipzig, qui n'était pas titulaire, mais qui est systématiquement
qui sera en pointe.
Ah, ça devrait être Arnautovic ou Grigoric, ça sera un des deux, de toute façon. Mais la logique, c'est que c'est plus Arnautovic.
Le petit Grigoric.
Oui, voilà, c'est ça. C'est exactement ça.
En l'occurrence, il fait 1m93.
Ah mince, ça marche pas.
Oui. J'ai sa fiche sous les yeux.
Oui, il fait 1m93.
Oui. ok, écoute, Polo, on verra demain. Il n'y a pas de méga grande star dans cette équipe. Bon, on va dire que Alaba n'est pas là, donc il est dans le staff, vous le savez.
Alors ça, c'est le gros problème.
On va dire que c'est sa
Alaba est blessé, Schlager est blessé, les deux Schlager, parce que même si c'est pas. Alors, il y a un vrai problème, c'est qu'ils n'ont pas de gardien. C'est Pence qui va être titularisé normalement demain. C'est vraiment pas bon. Vous le connaissez, hein, vous l'avez vu en L1. Ouais. Non, mais c'est vraiment intéressant de voir cette équipe. Ils sont parfaitement conscients d'être la dernière roue du carrosse dans ce groupe qui sont où ils sont quand même. Ils disent, enfin, Rangnick l'a très bien expliqué, ça fait 2 ans qu'on attend ce genre de rencontre, mais on est parfaitement conscient que c'est le groupe le plus difficile de l'Euro et on est tombé dedans. Voilà, on va voir ce que ça va donner demain. Moi, je suis impatient de voir cette équipe d'Autriche. Ne la faisons pas plus forte qu'elle n'est, mais elle peut embêter pas mal de
joueurs. Ne la sous-estimons pas.
On ne va pas la sous-estimer parce qu'on l'a plutôt dit qu'elle était bonne, mais j'ai l'impression que les absences dont tu parles et le problème du gardien, l'absence d'Alaba, va quand même peser.
au bout d'un moment, c'est rédhibitoire. C'est-à-dire que ouais. tu as un moment le niveau déjà. Mais en fait, la force de l'équipe d'Autriche, évidemment, c'est son milieu de terrain. C'est ce que produit la Galaxie Red Bull depuis des années, hein, de toute façon. Hein, les prochains, d'ailleurs, sont déjà en train d'arriver. Voir comment il va jouer devant. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce qu'il va tenter le coup d'un allié qui s'appelle Wimmer de Wolfsburg, que j'aime énormément et qui est très jeune? Ou est-ce qu'il va jouer un peu la sécurité avec Leimer décalé côté droit et mettre Grilic au milieu de terrain? Il y a plusieurs possibilités, mais c'est vrai que le fait qu'il manque Alaba, le fait qu'il manque Schlager, évidemment, qui était le véritable numéro 6 de l'équipe, ça fait beaucoup. Et puis, il y a un joueur qu'on oublie, c'est Kalajdzic, parce qu'il était fait exactement pour ce genre d'équipe. Voilà. Donc, Arnautovic n'est plus tout jeune, il tient pas 90 minutes. Grigoric, il a des périodes bonnes et des très mauvaises. On va voir ce que ça va donner, mais en tout cas, pour le football autrichien, c'est intéressant.
Merci Polo, on se retrouve demain. Merci bien sûr. Bonne nuit. Alors l'équipe de France maintenant. Je vais vous donner, parce que nos reporters qui suivent les Bleus de près, bien sûr, nous ont envoyé ça en début de soirée. Je vais vous donner l'équipe pour demain. Vous allez voir qu'il n'y a pas de surprise extraordinaire par rapport à ce qui était attendu ces derniers temps. Maignan dans les buts. Saliba donc confirmé avec Upamecano dans l'axe. Koundé, Théo Hernandez latéraux. Au milieu, Kanté, Rabiot. Devant la défense, Griezmann et une ligne de 3 devant Dembélé, Mbappé, Thuram. Voilà. Alors comment on va s'organiser devant? On a vu un Deschamps dans sa vie en équipe de France beaucoup plus défensif, hein. Parce que là quand même 4 joueurs clairement offensifs.
Après tout dépendra du comportement de Griezmann sur le terrain. Est-ce qu'il va être beaucoup plus haut? Parce qu'on nous expliquait dans les articles de l'équipe la semaine dernière que Griezmann devait accompagner Mbappé pour l'aider à presser. Comment ça va s'articuler? Est-ce qu'on aura le Griezmann 2022 vraiment milieu relayeur à côté de Kanté et Rabiot, ou vraiment 4-4-2 ou 4-2-3-1 avec Griezmann 9,5? Ça va être l'inconnu.
Oui, et puis Mbappé, Thuram, comment
Mbappé,
s'organiser Thuram, devant?
Est-ce que Mbappé va être numéro 9? Est-ce que ouais. Thuram va être à gauche pour bloquer le côté gauche? Ça va être intéressant.
Bon, moi je. Et puis la logique est celle-là quand même.
Et la grosse info, c'est que Saliba a gagné sa place alors qu'il y a 2 mois et demi, quand un journaliste lui posait la question sur le fait que Saliba était l'un des meilleurs défenseurs d'Europe et le meilleur en Première Ligue, Deschamps avait sourcillé. Et bon, bah depuis, il va être titulaire du premier match de l'Euro. Donc
ça, je pense que c'est quand même dans les enseignements des matchs amicaux et de préparation, dont on dit parfois qu'ils servent pas à grand chose, qu'on prend des adversaires faibles. Je pense que Saliba, là, il s'est dit, il faut que je marque les esprits. Et, comme beaucoup,
à lui de saisir sa chance.
Ouais, comme beaucoup, il avait parfois eu aussi, même en équipe de France, une forme de timidité, tu vois, qui a fait qu'il avait pas la même, il faisait pas les mêmes prestations qu'en club. Effectivement, là, on a senti qu'il voulait dire non, c'est bon, et c'était le moment. La porte était ouverte et entrouverte avec les problèmes de forme et de méforme des deux autres. Donc non, franchement, je pense que c'est plutôt une des bonnes choses de cette prépa. Après, c'est surtout l'animation offensive qu'il faut voir par rapport à cette équipe-là.
Dans un instant, l'équipe de France parle politique et aujourd'hui l'équipe de France était sur les chaînes d'info tout l'après-midi suite à la conférence de presse de Kylian Mbappé. On va l'écouter, Kylian Mbappé, et l'After va également donner son avis dans quelques instants.
C'est cool, les Bleus tombent pas sur le Brésil.
En même temps... Attends, ils sont pas qualifiés les Brésiliens?
Betclic souhaite la bienvenue à tous les parieurs, même ceux qu'on ne voit que tous les 2 ans. Rendez-vous dès maintenant sur l'application Betclic pour profiter de tes bons plans et tente de débloquer un max de free bets en tournant la nouvelle roue des défis. Betclic, l'app officielle pour parier sur les Bleus. Sous réserve d'éligibilité, voire conditions sur le site, les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
RMC jusqu'à 12h30. L'After Foot Intégral Euro.
Gilbert Bribois.
Minuit 15 dans un quart d'heure, la libre antenne avec Thibaut Jean-Grande, Oussem Moussaïef et Julien Cazard qui s'est tapé l'incruste dans la libre antenne pendant l'Euro. Il a raison, exactement. Et d'ailleurs, c'était pas très beau. On va voir ce soir ce que ça va donner.
On va écouter.
Alors. Kylian Mbappé en conférence de presse. On va écouter ce qu'il a dit. Il a pris position concernant les futures législatives et la situation politique en France après Marcus Thuram qu'il a fait hier. Je vous propose d'écouter tout de suite. Kylian Mbappé, c'est parti.
Oui, j'ai eu écho de ce communiqué. Maintenant, je pense qu'on est dans un moment crucial dans l'histoire de notre pays. Il faut savoir faire la part des choses et avoir le sens des priorités. L'euro a une place très importante dans nos carrières, mais je pense qu'on est des citoyens avant tout et je pense qu'on ne doit pas être déconnecté du monde qui nous entoure et encore moins quand ça concerne notre pays. On sait qu'on est dans un moment très important de l'histoire de notre pays, une situation inédite. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment envie de m'adresser à tout le peuple français et surtout à la jeune génération. Je pense qu'on est une génération qui peut faire la différence. Aujourd'hui, on voit très bien que les extrêmes sont aux portes du pouvoir. On a l'opportunité de choisir le futur de notre pays. Et c'est pour ça que j'appelle à tous les jeunes d'aller voter, de vraiment prendre conscience de l'importance de la situation. J'espère que ma voix va porter un maximum parce que le pays, on a besoin de s'identifier à ce pays. On a besoin de s'identifier à nos valeurs qui sont des valeurs de mixité, de tolérance, de respect. Et ça, c'est indéniable. Et je fais confiance à tous les Français. Je sais qu'il y a pas mal de jeunes qui se disent oui, mais une voix va rien changer. Au contraire, chaque voix compte. Et c'est pas à négliger. J'espère vraiment qu'on va faire le bon choix et j'espère qu'on sera encore fiers de porter ce maillot le 7.
Voilà, autre morceau de Kylian Mbappé pour être complet, hein, comme ça vous aurez à peu près tout, puis après on débat ensemble.
Kylian Mbappé est contre les extrêmes, contre les idées qui divisent. Comme j'ai dit, on a l'opportunité de choisir le futur de notre pays et c'est une tâche qu'il faut souligner, c'est très important. Et je pense que vous en avez pleinement conscience ici, mais peut-être qu'il y a plein de jeunes qui n'en ont pas forcément conscience, pas consciemment, mais inconsciemment, quand on voit le taux d'abstention, que ce soit dans les campagnes, dans les banlieues, partout. C'est pour ça que j'essaye de donner la voix pour vraiment parler à ces gens de ma génération, parce que j'étais dans cette caractéristique-là, étant plus jeune, de se dire « ma voix, elle va pas changer ». Si, 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 la voix, elle va changer et l'importance et l'urgence de la situation fait qu'aujourd'hui, comme j'ai dit, j'ai envie d'être fier de porter ce maillot le 7. J'ai pas envie de représenter un pays qui correspond pas à mes valeurs, qui correspond pas à nos valeurs, parce que je pense et j'espère qu'on est tous dans le même cas. Donc c'est pour ça qu'il faut pas se cacher. On dit souvent qu'il faut pas mélanger politique et foot. Je suis d'accord quand ça concerne des broutilles, mais quand c'est des situations comme celle-ci, c'est très important. Et c'est plus important, comme j'ai dit, que le match de demain. Et c'est une vérité et j'espère qu'on m'en voudra pas, parce que aujourd'hui le pays, il est dans une situation qui est très important. Non, parce que c'est des idées qui divisent. Et je suis contre la division. Je suis pour des idées qui rassemblent et des valeurs qui sont communes, qui sont sur la mixité, le respect et la tolérance.
Voilà, il ajoute par ailleurs qu'il est d'accord avec Marcus Thuram, hein, qui est rappelé à faire barrage au Rassemblement National. On a eu Zidane en son temps, hein, qui s'était positionné, rappelez-vous, 2002.
Non, il y a plusieurs choses.
Désormais, Kylian Mbappé.
J'ai entendu Flo parler de Marcus Thuram hier soir. J'étais totalement d'accord avec lui sur ce qu'il a dit sur sa prise de parole. Je crois que Vincent Duluc en a aussi parlé aussi dans l'équipe sur sa prise de parole courageuse sur le RN, sur le fait de faire front au RN. Kylian Mbappé va dans le sens de Marcus Thuram. C'est très très bien. Surtout après le communiqué de la FFF que moi j'ai trouvé très très douteux et lâche par rapport à ce que Marcus Thuram a fait et a dit en conférence de presse. Maintenant, juste ce qui me dérange moi avec la déclaration de Kylian Mbappé.
Le communiqué de la FFF, pour ceux qui ont raté ça, c'était un communiqué en gros de neutralité.
Ouais, neutralité. Alors que pour moi, je sais pas, mais quand t'as une équipe de France autant de diversité, autant de.
Pour une fois, je serais pas aussi sévère.
En fait, la Fédé n'a pas le choix, ils sont obligés.
Ah oui, enfin, ils sont obligés.
J'ai vu la Fédé allemande. Non, c'est juste de dire. Attends, après tu pourras continuer ton avis, mais c'est juste de leur part de dire. Qu'on appelle à voter, c'est une chose. Qu'on appelle à voter pour un parti ou contre un parti, c'est autre chose.
Ouais, mais je trouve que par rapport à ce qu'a dit Marcus Thuram, en fait, ils désavouent un peu leurs joueurs en disant il faut pas en parler.
Non, ils disent quand même les joueurs
on nous demande un avis, on le donnera pas parce qu'en tant que fédération, délégation de services.
De toute façon, c'est pour mieux, on n'avait pas l'intention de leur demander. Donc, tu veux.
Et après, sur Kylian Mbappé, le message est très très bon. Maintenant, juste sur l'histoire des deux extrêmes. Et de mettre sur le même point l'extrême droite et l'extrême gauche. Déjà, c'est quoi l'extrême gauche? Moi, je suis apolitique, hein, mais l'extrême gauche, le Conseil d'État a quand même dit que l'extrême gauche, c'était le parti de Philippe Poutou. Donc, mettre sur le même pied d'égalité le RN et l'extrême gauche, bon, en tout cas, mon avis.
Oui, après, hein, c'est les éléments, ouais, je pense. Ouais, qu'il y a...
Non, mais moi mon avis, c'est qu'aujourd'hui, entre le RN et l'extrême gauche, je vais pas faire un dessin, mais mettre les deux dans le même sac, aujourd'hui, je sais pas si c'est une. En tout cas, je ne partage pas cet avis-là.
Moi, ce que je vois tout de même, c'est qu'on a parce quand même une sortie de Kylian Mbappé très préparée. Je pense que c'était très préparé avec sans doute son entourage. Je ne sais pas qui l'a conseillé, sa mère, quelqu'un d'autre, j'en sais rien, mais enfin, sans doute très préparé. Oui. Et puis attention, parce que bon, c'est courageux de sa part, et ça va le poursuivre. Parce que Je rappelais tout à l'heure Zidane qui prend position en 2002. C'était la seule prise de position politique de Zidane. On en parle encore aujourd'hui, naturellement, parce qu'on s'en souvient. Bah, Mbappé, on va se souvenir qu'aujourd'hui, il a pris position, clairement.
Sauf que ce n'est pas la même chose. Parce que Zidane était dans un pays où, on va dire, il était suivi à 82%. Pour faire simple, c'était le score qu'il y avait eu derrière pour Chirac
face à Le Pen.
On est dans un pays beaucoup plus divisé. Et je t'annonce que ce qui va se passer là, en dehors de toute considération footballistique, à chaque occasion ratée par Marcus Thuram, qui marque peu en plus en équipe de France, ou par Mbappé, les opposants à Thuram et Mbappé sur ces histoires politiques.
Ça montre la gravité de la chose.
Mais si Mbappé te met un triplé en finale,
je soutiens effectivement leur prise de parole et le risque, puisque il y a eu beaucoup de débats sur mon fil Twitter, c'est pas risqué de dire ça. Si, je dis, peu importe ce qu'ils ont dit précisément et sur quelle partie ils sont intervenus, c'est la façon de prendre position aussi clairement et aussi nettement, c'est un risque effectivement pour eux. Je trouve ça très bien parce que à l'heure où effectivement leur sponsor par exemple ferait en sorte qu'aucun risque ne soit pris, ils ont quand même décidé d'aller plus loin. Et j'irais même que Marcus Thuram, il a embarqué Mbappé à aller plus loin quand il a dit ça suffit pas de dire qu'il faut aller voter. Et c'est pour ça qu'aussi Mbappé a fait cette prise de parole assez forte entre
l'extrémisme d'identité et l'extrémisme économique. Et c'est ce que je reproche un petit peu à Mbappé. Je les mets pas sur le même pied d'égalité. Surtout vu le parti historiquement chez le RN. Après, ça m'appartient.
Ce qu'il a dit quand même, ce qui est intéressant, parce qu'après lui, il peut pas s'engager.
Mais le message reste très très fort à la base.
Plus précisément, il est parti sur une idée qui, à mon avis, est assez intéressante, même si elle est très convenue. C'est de dire que, en tout cas, il n'allait pas sur les choses qui divisaient. Il préfère aller sur les choses qui unissent. Et c'est vrai que dans ce cadre-là. Dans ce qu'on a pu voir récemment, que ce soit, là pour le coup, et sans parler d'extrême gauche et d'extrême droite, que ce soit d'un côté ou de l'autre, il y a effectivement des partis qui n'unissaient pas. Après, peu importe quelque part, j'ai envie de te dire, le choix qui est le leur, je veux dire le choix de vote qui est le leur, il a aussi porté un message pour les jeunes de sa génération.
C'est important.
Il dit juste un truc, c'est que la plupart des jeunes à qui s'adresse ne sont pas inscrits aussi, parfois sur la liste, donc ils ne pourront même pas aller voter. Parce qu'avant de voter, il faut aussi s'inscrire sur la liste électorale. C'est un DV pour la petite histoire. Je veux dire, par là qu'il y a plein de gens qui peuvent écouter, qui disent, je vais aller voter, mais ils pourront peut-être pas parce que c'est trop tard. Mais après, il se passe un truc quand même de très différent. C'est que c'est pour ça que je dis les conséquences que ça va avoir. Peu importe, ils l'ont fait et Mbappé, c'est pas la première fois, entre guillemets, qui fait des prises de position importantes. Mais avant, on n'a pas eu ça. Il y a toute une génération où aucun footballeur ne prenait le moindre risque à ce niveau-là. Donc, je pense et je maintiens qu'effectivement, c'est effectivement courageux. Parce qu'à l'heure où tes sponsors et ton entourage pourraient t'encourager à ne rien dire,
que des mecs issus de l'immigration, issus de la diversité, parlent sur ce type de message. Et surtout Marcus Thuram qui l'a fait en premier et qui a été, moi je trouve, parfait dans son discours.
Alors, pour l'anecdote, Mbappé a confirmé par ailleurs qu'il n'irait pas aux Jeux Olympiques. Un autre soir, ce serait une grosse info, mais là, je vous le glisse en passant. Et puis, il a dit, je verrai demain si j'ai les jambes. En tout cas, pour l'instant, j'ai la tête, a dit Mbappé. Donc, il confirme que physiquement, il ne sait pas vraiment où il en est. Donc, on verra ça demain.
Ça reste quand même une inconnue, ouais.
Je vous fais quand même écouter Didier Deschamps sur cette histoire, parce que lui, le sélectionneur, qui est toujours contrôle fric, et qui est toujours très attentif à ce qu'il n'y ait pas de problème, pas d'interférence et tout. Écoutez ce qu'il a dit ce soir sur les prises de position politiques des joueurs.
Marcus a parlé, je ne vais pas commenter ce que disent les joueurs. Ils discutent entre eux, il y en a certains qui sont peut-être plus à même à dire certaines choses, d'autres ont peut-être moins envie. C'est une liberté aussi, voilà. Vous allez considérer, c'est très bien, il y en a qui vont dire, c'est pas son rôle, qui a raison, qui a tort. Ce sont des citoyens, évidemment, qui représentent beaucoup. La seule chose que je suis conscient, que je suis sûr, c'est que ce qui nous attend demain, l'espace d'un match, le sport... Et le football a cette capacité-là de pouvoir réunir et unir tout le monde.
Voilà, la seule chose dont je suis sûr, Monsieur Deschamps. Voilà pour cette affaire. On aura l'occasion d'y revenir, bien sûr, lors de prochains afters. Il nous reste moins de 5 minutes, les gars. En fait, Deschamps, ça me contrarie un peu. J'ai toujours l'impression qu'il fait des réponses politiques.
Deschamps, c'est verrouillé.
Lui aussi aurait très bien pu dire moi aussi, j'appelle.
Non. Voilà. Je sais pas, avec l'équipe de France qu'il a, je sais pas. Rester aussi neutre, mais bon, il fait ce qu'il veut après.
On a de l'actu parisienne et marseillaise, les gars, ce soir. Actu Mercato côté PSG, pour vous dire que Luis Enrique et Luis Campos ont discuté longuement avec Lenny Yoro pour essayer de le convaincre. Parce que vous savez que pour l'instant, c'est le Real qui est en tête hein, dans la course au Lenny Yoro.
Oui.
Mais au PSG, on a essayé de lui vendre le projet, de lui vendre du rêve. Ils ont dit voilà, tu es notre priorité absolue à ce poste. Avec nous, tu auras du temps de jeu important, tu auras une intégration facilitée.
Tu seras le déambulateur de Marquinhos.
Dans un championnat que tu connais, dans un vestiaire où tu connais déjà du monde. Voilà, en gros, on te propose plein de trucs que le Real ne te propose pas, quoi. En quelque sorte, c'est les arguments de Campos et Luis Enrique. Pour Lenny Yoro. Est-ce que ça va marcher?
Je sais pas, mais ce serait beau d'avoir Lenny Yoro pour le Paris Saint-Germain. Après, à la
on
place
m'a dit
de...
que lui, personnellement, il était hypé par le fait de jouer au PSG.
Après, à la place de Lenny Yoro, le Real qui vient de gagner la Ligue des Champions, qui va récupérer Mbappé ou le PSG, je sais pas ce que je fais. je vais peut-être au Real Madrid. Hein. Donc, et j'ai vu aussi qu'il y avait eu des déclarations de l'agent de Kvaratskhelia. Qui a enfoncé la porte ouverte à un départ en disant nous on part du Napoli, on est concentré sur l'Euro. Mec fait des appels de phare au Paris Saint-Germain quand même très très clair pendant toute l'interview.
Je crois qu'il est garé devant le parc déjà. Il attend qu'on lui ouvre la porte en fait.
Exactement.
Et puis l'OM, accord total aujourd'hui pour deux Zerbi. Ça y est.
Ça c'est gros. Hein.
Et donc l'OM gros, et Brighton se sont mis d'accord.
Hors actu Euro.
Parce que
un club sans Coupe d'Europe. Qui récupère un entraîneur aussi créatif. Et je vais te dire un truc, j'ai toujours été très sceptique parce que justement, il n'y a pas de Coupe d'Europe sur l'avenue de Conseil-Sao à l'OM. Bon, apparemment, ça n'a pas été du vent, il y avait des contacts, mais moi, j'imaginais pas ça. Mais alors, de retomber sur ses pattes de la part de Longoria, parce que là, maintenant, j'entends les gars dire oui, mais maintenant, ça va dépendre de l'effectif. Ok, mais d'avoir déjà ramené. Ces coachs là qu'on a vu, Sampaoli, Tudor et maintenant
De Zerbi.
Et par rapport à ce qu'on a vu l'été dernier, pour le coup, par rapport au style qu'il avait des entraîneurs qu'il avait pris, là on est dans de meilleures dispositions quand même. Moi je suis totalement hypé.
Donc là on en est à
la Ligue 1.
Bien sûr.
On en est à la rédaction du contrat qui sera signé donc vraisemblablement au début de semaine et De Zerbi travaille déjà sur l'effectif.
Je suis sûr que c'est pas l'ancien adjoint d'Antonetti, Jean-Marie De Zerbi, c'est bien le
non, c'est pas le même De Zerbi. C'est pas le De Zerbi qui criait derrière Antonetti.
Les débats qu'on va avoir à l'after, etc., franchement ça va être beau.
Cool. À Marseille, je vous signale par ailleurs que Vitinha quitte définitivement le club. Il a signé à Genoa. Donc Vitinha, ça aurait été plus gros transfert de l'histoire de l'OM. 46 matchs, 6 buts, et 4 passes.
C'est le PSG qui a pris le bon Vitinha.
Oui. Voilà. Il y avait le bon Vitinha et le mauvais Vitinha.
Bien revendu quand même.
Bien revendu. Et puis pour finir, avant de passer la main à la libre antenne, sachez qu'un nouveau joueur a déclaré forfait pour les Jeux Olympiques. C'est Maxime Estève, le défenseur qui ne sera pas là. Donc après Chevalier, Diakité, Yoro, Barcola, Zaïre Emery et Matistel, c'est le 7e à être empêché pour venir aux Jeux Olympiques. Donc Thierry Henry a jusqu'au 3 juillet, je le rappelle, pour donner sa liste définitive. Voilà, je crois qu'on a été complet, messieurs, dames. Julien Cazard est là, avec Thibaut, Oussem. Il est possible qu'il y ait une spéciale Mbappé ce soir. Ah non, Julien, il ne veut pas. Julien, il ne veut pas, il veut parler de l'Euro, il ne veut pas être du Danemark.
Il veut parler de
l'Allemagne, il veut parler de bière de Zerbi. Il veut parler de Zerbi. Merci Walid, merci Flo. Rendez-vous demain soir en direct de Macon. Après le match.
Tu sais qu'il y a Courtepaille, Julien, à Macon.
Entre la France et.
Alors j'ai une mauvaise nouvelle, je crois que Courtepaille a changé.
Ça a été racheté.
Ouais.
Ils ont gardé la marque.
Ils ont gardé la marque. Je crois que ça va devenir grill quelque chose.
Grill quelque chose.
Ouais. Grill quelque chose.
C'est pas mal comme marque. Ouais, la salade d'accueil quand même, ils la maintiennent.
Alors ça, par contre, ça va être plus tordu parce que Buffalo Grill a déposé plainte pour plagiat.
Bon, écoute. Bonne libre antenne en tout cas.
C'est à vous les
gars. Oui, par contre, c'est pas un peu long, mais il est minuit et demi là. Vous ramiez sur la fin, les gars.
Quoi ? Tu rigoles ou quoi ?
On a fait un quart d'heure sur les Lyon.
On a fait deux sujets qui auraient pu être des ouvertures d'un sujet numéro 1. Deux Zerbi. Et Mbappé. À la fin de l'after.
Plusieurs, on n'en parle jamais de Mbappé. C'est bien d'avoir un sujet dessus. Personne n'en parle jamais. J'ai jamais compris, moi.
Il est parfait, Mbappé. Il est parfait en dehors du terrain. Sur le terrain. Comment déplaise M. Cazard.
Il a pris Jean-Marie De Zerbi, l'assistant d'Antonio.
Ah, mais c'est important.
Là, on va rigoler.
C'est lui, en fait, qu'ils ont fait signer.
Gratuit.
Allez, à demain.
RMC, l'after foot intégral euro.